Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Geoffrey Pelletier, Joshua Gonzalez, Sébastien Renaud-Golessi, Phil Six, Laurent Maillard, Denis Garez, Alex Ginpro, Mathias, François Payen et Xavier Louillet. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous décortique l'actu tech, internet et gadget, où on la compresse et on l'explique d'une manière totalement compréhensible par les néophytes et intéressante pour les experts. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est la promesse de l'émission. Et c'est ce qu'on va essayer de faire encore une fois aujourd'hui avec les annonces Android et iOS pour le wearable computing, qu'on va aussi essayer de traduire, ça va être marrant. Quelques informations nous venant de et sur Edward Snowden, qui est sorti un petit peu du bois. Les suites des histoires de l'épisode précédent avec Numéricable, SFR, Free et Vivendi et tout ça, et Bouygues bien sûr. Et tout un tas de news et rumeurs plutôt intéressantes. Mais avant de se lancer dans ces histoires, je vais tout de même présenter les excellents animateurs qui vont m'accompagner dans l'émission. À commencer par Monsieur Cédric Ingrand. Comment allez-vous, monsieur ?
Bonjour Monsieur Patrick Béja, je suis ravi et honoré, un peu intimidé de parler à un podcasteur qui gagne de l'argent dans des podcasts. Je suis pas très habitué.
C'est des bêtes rares.
Enfin jusque là on faisait tout ça un peu à charge d'emploi en disant que peut-être un jour. Donc voilà. Donc maintenant je suis content de connaître des gens qui gagnent presque leur vie avec le podcast. Peut-être que ça a poussé à faire un rendez-vous tech toutes les semaines cette histoire.
Oh, ça peut. Je sais pas. Peut-être. Mais tu sais, j'aime bien le format bimensuel en fait. Mais je sais pas. Peut-être. Hein, tout est possible. C'est vrai que grâce à Patreon, maintenant, ça existe, les gens qui gagnent de l'argent. Et il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'anglophones qui le font aussi, qui gagnent plus d'argent encore. Mais justement, en parlant de Patreon, on va en parler un petit peu plus tard, mais pour le moment, restons sur les sujets.
Doute.
Restons sur les sujets importants en souhaitant la bienvenue à justement Alexandre, qui est l'un des fous furieux qui a décidé de soutenir le Rendez-vous Tech par Patreon à un niveau qui fait de lui un animateur d'un jour, le genre de truc que j'ai mis dans les récompenses en n'y croyant pas trop, à la limite en rigolant, en me disant que ça n'arriverait jamais. Mais bon, voilà, donc merci Alexandre et bienvenue dans l'émission. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va?
Très bien, mais je me considère pas du tout comme un fou furieux. Moi, je trouve ça très normal.
Bon, on en parlera de l'émission.
Mais bonsoir Patrick et bonsoir Cédric.
Alors, comme bonsoir. Je te le disais, comme je le disais dans les notes et quand on se le disait par email, si tu veux intervenir dans l'émission, surtout n'hésite pas. Si tu veux rester un petit peu en retrait, si tu veux juste être là en tant que spectateur ou auditeur en quelque sorte en live, tu peux le faire aussi. Si jamais tu veux parler, comme je te le disais avant l'émission, n'hésite pas, n'hésite surtout pas à nous interrompre parce que Cédric et moi, on occupe un peu l'espace.
Lève le doigt d'abord.
D'accord.
Donc... tu peux le faire. Pour tout te dire, et pour le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, je pensais à l'origine inviter deux co-animateurs, comme je le fais souvent. Et puis, comme Cédric était enfin disponible, il est très occupé en ce moment, mais comme il était disponible, je me suis dit, si on a Cédric, on a besoin que d'un co-animateur. Ah. Il prend la place de deux, c'est parfait.
Fais attention, on peut finir par moi aussi demander de l'argent.
Non, mais écoute, je t'y encourage. C'est une habitude que nous devons prendre si on veut faire survivre le podcast professionnel. Mais alors, on a peut-être deux petits mots sur Alexandre. On en parlera un petit peu après, juste pour que les auditeurs te situent. Toi, tu es programmeur iOS et tu as une start-up dont on parlera peut-être un peu à la fin quand on dira aux gens où ils peuvent nous retrouver. Mais donc, tu es quand même familier de la chose technologique, c'est ton métier aussi, quoi.
Oui, voilà, ouais, tout à fait, un petit peu.
D'accord. Donc, t'auras aussi des choses intéressantes à dire, surtout, sans doute, sur notre premier sujet, qui est que Android et iOS deviennent portables. On vous parlait, il y a quelques épisodes de Android et iOS dans les voitures. Eh bien là, on le sentait venir, hein, bien sûr, c'est la grande tendance de l'année, c'était le cas au CES et ailleurs. Il y a eu des annonces et des rumeurs sur les deux plateformes, sur la manière dont ils vont aborder cette tendance tendances de la portabilité. Et avant de se lancer dans l'explication des rumeurs, on a discuté sur Twitter un petit peu de la manière de traduire le fameux wearable computing en français, parce que j'en avais un petit peu marre de devoir parler de wearable computing tout le temps et à tout bout de champ. Et je me suis dit, c'est pas possible, on doit avoir un moyen de le traduire et un moyen qui soit pas ridicule. Et donc, j'ai posé la question sur Twitter, est-ce que les gens avaient des idées sur le sujet? Il y a plusieurs personnes qui ont participé, dont notamment Seb Ramirez et Natlantis Prog, qui nous a trouvé un truc qui est sublime par sa simplicité et sa justesse. Il nous a dit tout simplement, pourquoi ne pas appeler ça les technologies portables? C'est parfait, non?
Ah.
Alors, le truc, c'est que il y a des gens qui ont proposé le prêt-à-porter connecté ou les vêtements connectés, tout ça. Et le problème, c'est que ça n'est pas exactement ça, parce que c'est pas que les vêtements, c'est aussi. Et je trouve que technologie portable, c'est pas pile ça, mais de la même manière que wearable computing, c'est pas tout à fait ça non plus. Moi, je trouve que ça marche, technologie portable.
Non, parce que je pense pas, parce que technologie portable, ça recouvre tellement de choses. Si tu ne donnes pas le contexte de ce que tu veux dire, ça peut vouloir dire n'importe quel bout d'informatique mobile. Il y avait déjà des mots, hein. Il y a déjà, on parle d'informatique vestimentaire, on parle d'informatique. Moi, j'aime bien l'informatique prête à porter, parce qu'on comprend qu'on le portera comme un vêtement ou pas forcément comme un vêtement.
Oui, mais du coup, tout ce qui est montre et tracker et tout ça.
Oui, non, mais je comprends, mais c'est autant se le dire tout de suite, il n'y a pas de terme idéal, sinon on l'aurait déjà tous trouvé.
C'est ça, oui.
Voilà, le vestimentaire, oui, bah oui, la référence aux vêtements est immédiate, la référence de prêt-à-porter aux vêtements est peut-être un tout petit peu moins immédiate, ou en tout cas peut recouvrir éventuellement d'autres choses.
Oui, mais du coup, technologie prêt-à-porter, c'est super long. Bon, écoute, pour cet épisode, non, moi, si je parlerai de technologie portable.
Si on avait voulu utiliser des mots courts, on aurait parlé anglais. Hein,
c'est... Bah, wearable computing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, 6 syllabes. Technologie portable, 5 syllabes, on fait mieux.
Ça fait un peu ambigu avec les téléphones portables, hein, quand même.
C'est pas faux.
Et prêt-à-porter, ça fait vraiment vêtements, hein, alors que, bah. les Google Glass, on va en parler, par exemple, les montres Android, enfin, c'est...
Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord.
Ça fait vraiment vêtements, quoi.
C'est pour ça que prêt-à-porter, j'adore pas. C'est ce qu'avait proposé Seb Ramirez, justement. Bon, écoutez, moi, je vais partir sur technologie portable. On va voir si ça tient ou si ça tient pas. Mais dans tous les cas, maintenant, vous savez de quoi on va parler. Et on va commencer avec Android Wear, dont vous avez sans doute entendu parler, vous aussi, chers auditeurs, puisque c'était une annonce assez importante de Google pour amener Android dans le marché des technologies portables ou du prêt-à-porter, technologie prêt-à-porter. Et ils ont donc annoncé tout un écosystème avec des environnements de développement, une nouvelle interface, etc., etc., pour amener Android. Ils ont très tenu à préciser que c'était pas uniquement pour les montres, même si les premiers exemples qu'on voit sont vraiment avec des montres. Alors, qu'est-ce que c'est que Android Wear? En gros, c'est pour la partie utilisateur une interface qui ressemble énormément à Google Now. Pour ceux qui connaissent pas Google Now, c'est ce système de cartes qui va essayer de prédire ce dont vous avez besoin et de vous en informer à l'avance, ou alors de vous donner des notifications sur des choses qui se passent, en tout cas sur Android Wear, par exemple. Si la fin de la journée arrive et qu'il est à l'adresse dont il sait que c'est le bureau, ça, là je parle de Google Now, il va pouvoir vous donner les conditions de trafic pour rentrer jusqu'à chez vous et vous dire s'il y a des routes alternatives, etc. Si vous recevez un message, un email, évidemment il peut y avoir un système de notification, vous pouvez les consulter et y répondre par Google Now, c'est-à-dire avec la voix également, vous pouvez contrôler ça avec la voix, etc., etc. Il y a une vidéo qui est plutôt pas mal foutue qui montre la manière dont ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la partie logicielle. On va parler du matériel qui a été présenté aussi dans quelques minutes, mais déjà sur la partie logicielle et la vidéo qu'ils ont présentée qui montre les utilisations dans la pratique de cet Android Wear, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à commencer par Cédric, peut-être?
Bah, c'est ce qu'on attendait, en fait. De l'instant du jour, moi, je me souviens où j'ai découvert Google Now pour la première fois, je crois que c'était avec Android 4.0, non? On se dit, ce truc est pas destiné juste à rester sur l'écran du smartphone. C'est-à-dire ce truc qui, tout à coup, t'affiche ton boarding pass quand tu arrives à un aéroport, comprend le trajet que tu es en train de prendre, déduit de lui-même que, bah, la nuit, t'es probablement chez toi et la journée, t'es probablement au bureau, etc., etc., te donne aussi, les infos sur les scores en temps réel des équipes de sport que tu recherches le plus souvent sur Google, etc. C'est vraiment la réalisation de l'intelligence de ce qu'on peut faire avec les données que Google a déjà, d'ailleurs, parce que toutes ces choses, c'est issu, finalement, de ce que tu recherches, de ton mail, de etc., etc., de tes déplacements, de données que tu as déjà partagées. Tu n'as pas besoin de remplir des formulaires pour que tout à coup, ça devienne utile et intelligent. Et
c'est un système très intelligent, effectivement.
Oui, mais sans ambition démesurée, c'est-à-dire que a priori il y a plein de choses qu'il pourrait essayer de te donner comme information et qui seraient pas forcément pertinentes. Du coup, il essaye pas, il se cantonne jusque là en tout cas à des choses assez simples, mais de fait immédiatement utiles, parce que il peut déduire des choses vu qu'il connaît mes déplacements. Bah, tu l'as dit, moi vers 19h30, il me dit à cette heure-là pour rentrer à la maison par le périph' sud, il faudra tant de temps, ce qui est 14 minutes de plus que ton temps de trajet habituel, etc. Et ça, du jour où je l'ai vu, moi j'ai compris que ça avait un avenir au-delà de l'écran de l'ordinateur. Alors d'ailleurs, maintenant ils le font en notification dans Chrome, mais clairement on pensait déjà, du jour où on a vu par exemple les Google Glass, une bonne partie de ce qui se passe dans les Google Glass, c'est ça, ce sont des informations sorties de Now.
T'as raison de le mentionner, parce que c'est l'interface, c'est même, bon c'est pas tout à fait la même, mais le type d'information qui passe et la manière dont ça se contrôle un petit peu, c'est des cousins, on va dire, d'une certaine manière.
Et donc l'idée de la montre, c'est ça, c'est quelque chose qui, bah, par défaut, te montrerait les informations que tu cherches immédiatement sur une montre, comme l'heure qu'il est, et accessoirement, pourquoi pas la météo de l'endroit où tu te trouves, mais qui, de fait, peut avoir l'ambition d'aller beaucoup plus loin de manière transparente. C'est ce qu'on voit dans la vidéo de démo avec cette jeune femme qui court dans un aéroport et quand elle arrive à sa porte d'embarquement, d'abord la montre lui dit tu viens de consommer 53 calories et mais surtout la montre lui affiche directement le QR code de sa carte d'embarquement, ce qui permet de faire son check-in directement avec sa montre. J'attends le jour où je vais pouvoir faire ça, je pense que l'hôtesse va s'évanouir. Et
mais alors
donc voilà. Donc forcément, alors, quand on voit la vidéo, c'est un peu ralovely, quoi. C'est oui, très bien, mais ça coûte combien et
je peux l'acheter quand? Et toi, Alexandre, ça t'a séduit aussi, toi qui es peut-être un petit peu plus dans le monde du développement iOS?
Oui, alors c'est vrai que je suis plus dans le monde du développement iOS, mais j'avais vraiment eu un coup de cœur également pour Google Now à l'époque où c'était sorti sur Android. Ça m'a même fait passer à Android, même si je suis revenu à iOS après. Et c'est vrai que quand j'ai vu la moto 360 et la vidéo de démonstration, j'ai vraiment retrouvé tout l'intérêt de Google Now, à savoir les notifications et tout ça. Mais même si c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, si on m'avait dit que j'aurais parlé à mon téléphone pour envoyer des SMS ou enfin si encore envoyer les SMS ça va, mais prendre un rendez-vous
pour lui poser des questions ou répondre.
Voilà, donc, quand on voit sur la vidéo le monsieur qui parle à sa montre dans le métro, je suis pas sûr encore de pouvoir franchir ce cap, mais je pense que ça viendra également.
C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que moi je voulais mentionner, c'est-à-dire que pour moi c'est effectivement une extension tout à fait logique de Google Now et même une manière logique de construire une montre connectée pour Google et avec Android. Mais en regardant cette vidéo, j'étais un petit peu mal à l'aise, et un terme peut-être un peu fort, mais ça me fait le même effet que les Google Glass, où ça reste une manière d'utiliser le truc dont je suis pas sûr qu'elle va prendre. Alors peut-être que c'est moi qui suis en train d'être un vieux schnock, ou j'allais dire un vieux con, et qui dit mais parce que le moment où il est tout à fait innocemment en train de lever son poignet pour parler à sa montre et que personne d'autre dans le métro ne tique, ça me fait encore une fois un petit peu l'effet du, bon évidemment là ils font la présentation genre le jour où ça sera disponible pour tout le monde et que ça sera normal, mais justement je sais pas si on va arriver à un moment où ça sera suffisamment intégré dans la société où plus personne s'en préoccupera, ou alors si on est dans une optique un petit peu comme ce truc auquel on compare souvent, l'oreillette Bluetooth que les gens gardent en permanence, qui te tape quand même un petit peu la fiche. Moi je suis un petit peu un abruti, quoi. Je suis désolé pour ceux qui utilisent les oreillettes Bluetooth, mais c'est vrai qu'il y a cette image un petit peu Je sais pas très bien comment la définir, mais c'est pas passé complètement dans les usages. Sinon, tout le monde aurait une oreillette Bluetooth en permanence tout le temps. Tu vois, c'est tellement pratique que, et je sais pas. Google Glass a un petit peu cette image aussi. Je sais pas s'ils vont réussir à s'en départir. Et moi, ça m'a fait un petit peu ce même effet. C'est-à-dire, le fait de parler à sa montre, de faire glisser les notifications comme ça qui te donnent pas énormément d'informations et pour répondre, il faut, enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas, c'est très intéressant au niveau technique, au niveau technologique. Je suis pas sûr que la forme soit tout à fait, en tout cas, la manière dont c'est présenté dans la vidéo, ça m'a quand même, il y avait un petit truc qui m'arrêtait. Maintenant, tout de même, une chose qu'il faut dire, il y a deux prototypes de montres qui ont été présentés. La montre LG, qui est assez classique et qui, à mon sens, n'est pas intéressante. Vous me direz si je me trompe. Et de l'autre côté, la montre Motorola, qui s'appelle Moto 360, qui est, pour le coup, la première montre connectée, qui est non seulement belle, mais suffisamment belle pour faire, pour donner envie à n'importe qui, même en dehors du fait que ça soit une montre connectée. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. D'une part, elle a un écran d'une finesse incroyable qui fait qu'elle peut afficher des montres, des vraies montres, comme si c'était une vraie montre. D'autre part, elle est ronde. Et c'est tout bête, hein. Mais une montre ronde qui est grosse comme ça, c'est une montre, là, pour le coup. Ça fait plus montre Casio avec calculatrice que t'avais quand t'avais 13 ans. Enfin, quand t'es vieux comme moi, que t'avais quand t'avais 13 ans et que tu voulais faire le kéké dans la cour de récré. Là, ça, c'est juste une belle montre, quoi. Elle vous a séduit, celle-ci, ou?
Ouais. Énormément. Énormément, parce que t'as raison, elle commence à ressembler à une montre. Moi, depuis les premières montres connectées, on va dire de la dernière vague, c'est-à-dire les premières Sony, Samsung, ce fabricant italien dont le nom m'échappe, etc. Le problème, t'as raison, c'est qu'on est un peu en train de refaire la montre calculatrice des années 80 en plus gros, bon, avec un plus bel écran. Et je regarde, moi, la montre que j'ai au poignet, qui est pas une montre luxueuse, enfin, qui est une belle G-Shock de pilote, voilà. Et à chaque fois, je me dis, non, je vais pas encore mettre celle-là dans un tiroir, parce que voilà, on parle même pas de richesse fonctionnelle, parce que celle-là fait plein de trucs, mais il n'y a pas d'écran, il y a des aiguilles, mais elle a 20 ans d'autonomie, enfin voilà, donc tout à coup, on est en train de parler d'autre chose en termes d'usage. Et t'as raison, celle de Motorola, alors évidemment, on attend de la voir pour de vrai au poignet, pour arriver à se rendre compte réellement de ce qu'elle fait, ouais, là, il y a de bonnes chances que ça marche. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur l'analogie avec Google Glass. Moi, je trouve que la technologie Google Glass est un truc génial, mais t'as raison, le côté glass hole, c'est-à-dire, tu te balades avec ça sur le nez, les gens te regardent en disant, really? Vraiment? C'est un peu, je pense que c'est ça. Ça, c'est un peu la nouvelle oreillette Bluetooth. Donc, si tu trouves que c'est super génial ou que t'en as vraiment besoin, eh ben, tu les portes quand même. Comme ce chauffeur de taxi chinois dont je me souviens qu'il y avait une oreillette Bluetooth dans chaque oreille. c'était pratique et très joli. Je pense qu'il y avait beaucoup d'affaires à gérer, hein,
bien sûr. Deux téléphones, deux oreillettes.
Mais là, je comprends qu'il y a une gêne, il y a un petit mouvement de recul. Moi, il y a un garçon, il y a pas longtemps, qui a débarqué chez moi pour un brunch. Enfin, je vous raconte pas ma life, mais que je connaissais pas, que ma femme m'avait invité, et qui est arrivé avec ses Google Glass. Et là, c'était genre, vraiment, t'es sûr? Et en plus, il portait, c'était pas des lunettes correctrices, hein, si mes souvenirs sont bons. J'ai encore vu quelqu'un dans un événement la semaine dernière, un journaliste, qu'on avait une paire. Bon, il y a encore un truc. Il va falloir du temps pour que ça devienne normal, logique. Et pourtant, j'ai une immense tolérance pour ce genre de choses. Je sais exactement ce qu'il peut faire avec. Ça me gêne pas personnellement. C'est juste, tu sais, un peu comme une faute de goût. Tu vois, les chaussettes roses avec un smoking, quoi. C'est genre, vraiment?
Ouais. La montre, ça, enfin. Bah, la Google, montre. Android Wear en général, ça t'a pas donné cet effet du tout, quoi.
Non, et t'as pas l'air plus ridicule qu'en posant des questions à Siri dans le bus. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est pas faux.
Donc,
c'est pas faux.
Là, parce qu'on l'a pas dit, mais évidemment, l'essentiel de l'interface est basé sur le vocal, sur la voix, sur
et
la
il faut avoir son téléphone à côté. Il y a deux choses. Il faut avoir son téléphone à côté, donc c'est connecté au téléphone. Et on n'a pas d'infos.
Oui,
pour l'instant, t'as raison. Mais et on n'a pas d'infos sur l'autonomie, ce qui est l'autre gros point d'interrogation. Quoi.
Ah, ça, c'est le très très gros
nerf
de la guerre. Ils l'ont dit.
Oui, je crois qu'ils l'ont dit qu'il y aura un rechargement sans fil, mais l'autonomie, je crois pas qu'ils aient communiqué dessus.
Et toi, justement, Alexandre, cet aspect un petit peu glass hole ou l'abruti avec son truc technologique, ça te le fait ou c'est vraiment que moi qui fait de la résistance?
Ouais, c'est vrai que Google Glass, je pense que ça fait un peu bizarre.
Non, mais je veux dire pour la montre.
Pour la montre. Non, moi je sais pas. par rapport au design, pour en venir au design, ce que vous disiez, c'est vrai que moi, la moto 360, je la trouve très fine, très belle, très raffinée. Quand on voit à côté une Samsung Gear qui fait vachement mastoc, rectangulaire, avec une interface que je trouve à mon goût pas très sexy, je trouve que là, ils ont vraiment marqué des points, Google, par rapport à Samsung et son design, quoi.
Ouais, c'est vrai. Donc bon, et en plus elle est d'une
même
finesse.
Si, attendez quand même d'avoir la Gear Fit au poignet, vous verrez,
elle est très jolie, la Gear Fit, c'est
elle
sûr. Mais c'est plus le même type d'écran, c'est beaucoup plus petit, c'est plus la même utilisation. Là, c'est un gros écran. La montre, elle est grosse, elle est jolie et l'écran est d'une finesse, mais enfin c'est invraisemblable quoi. Ouais, et rond, ouais, mais absolument. C'est tellement bête, c'est le genre de truc où on se dit mais en fait, si ça se trouve, il suffisait de faire un écran rond pour que ça passe. Parce que j'ai beau être un petit peu, faire de la résistance sur Android Wear, un tout petit peu, hein, c'est juste que je me pose la question. Autant je me dis, cette montre-là, oui, j'aurais aucun problème pour la mettre à mon poignet. Donc ça se trouve, il suffisait de ça, quoi. Donc.
Oui, mais il suffisait de ça. Le passage du carré au rond, ça a aussi des énormes implications en termes de design, de l'électronique qui va derrière, de la batterie. On sait faire des trucs carrés, rectangulaires, hein. C'est assez facile pour les cartes électroniques et les batteries. Faire des choses rondes, c'est moins facile. C'est beaucoup moins simple.
Alors l'autre partie de cette discussion, c'est la partie iOS, puisqu'on a eu une grosse, alors on appelle ça une rumeur, mais c'est un leak qui a été envoyé à 9to5Mac, l'un des gros sites, l'un des gros blogs d'information sur Apple et sur iOS en général, sur l'approche d'Apple à cette technologie portable, et en fait ce sur quoi ils vont se concentrer a priori. Et la chose dont on a entendu parler, c'est une application spécifiquement qui s'appelle Healthbook. Donc le livre de santé, qui fait un petit parallèle avec Passbook, qui est l'application chez Apple qui permet de réunir tous les coupons qu'on a réunis, qui franchement n'a pas connu un développement invraisemblable. Mais Healthbook, ça serait une application où ça réunit toutes les informations de santé et de fitness que vous avez sur votre grâce à votre écosystème Apple, qui inclut bien sûr le téléphone en lui-même, mais aussi cette future montre connectée qu'il serait en train de développer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application réunit une quantité d'informations et fait une synthèse de ces informations à un niveau qu'on n'a vraiment pas vu jusqu'à maintenant dans ce type de produit. C'est-à-dire que ça réunit à la fois des informations sur, je vais faire une petite liste rapide, vos analyses de sang, votre rythme cardiaque, votre hydratation, votre pression sanguine, l'activité que vous faites, la nutrition, la quantité de sucre dans le sang, la manière dont vous dormez, la saturation de l'oxygène dans le sang, le rythme de respiration, le poids, etc., etc. Alors, ça pose évidemment énormément de questions sur comment est-ce qu'ils vont réunir toutes ces informations. On se doute qu'il y en aura une partie avec le téléphone et le processeur M7 qui capte vos mouvements, sans doute une partie avec la future montre qui pourra faire une surveillance de votre rythme cardiaque par exemple, et peut-être d'autres choses aussi, mais il y a d'autres éléments dont on imagine qu'ils ne seront peut-être pas disponibles ni avec le téléphone ni avec la montre, et donc il y aurait peut-être un système logiciel qui permettrait à d'autres acteurs de ce marché de se connecter à Healthbook et de fournir des informations là aussi. Ce qui est clair, c'est que l'approche qu'en fait Apple, c'est visiblement sans doute en partie sous l'impulsion de Tim Cook, le président actuel, qui est très 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 accro à ce type de d'application santé et fitness. Donc c'est une poussée vers cette utilisation qui est beaucoup plus complète et qui prend une vision beaucoup plus générale de votre santé et qui, semble-t-il, permettrait d'avoir une vraie information et une vraie vision sur votre santé et la manière dont vous gérez tout ça d'une manière qui n'était pas encore possible aujourd'hui malgré les petits efforts comme Fitbit et comme les Galaxy Gear, etc. etc. Donc, c'est encore des rumeurs, hein, c'est un leak qui est bien en amont de l'éventuelle sortie d'une hypothétique montre Apple, mais quand même, on a suffisamment de points de référence pour se dire que entre les différentes choses qu'on sait, les personnes que Apple a engagées, etc., pour se dire qu'il y a peut-être du vrai derrière tout ça. Donc, j'ai fait un long monologue, comme d'habitude. Cédric, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu penses que ça marcherait?
C'est crédible, mais de fait, tu l'as dit, il y a plein de questions qui se posent sur comment ces données sont rassemblées. C'est-à-dire, bon, il y a des choses qu'on connaît, tu l'as dit, sur tout ce que permettent les capteurs de mouvement, le M7, etc. Et ça concerne, j'ai envie de dire, l'essentiel des choses intéressantes dans l'application. Maintenant, l'hydratation. Des capteurs pour arriver à mesurer ton niveau d'hydratation, ton niveau de glucose dans le sang. Là, on rentre dans un truc qui est carrément invasif, hein, parce que ça, si mes souvenirs sont bons et ils sont récents, c'est pas un truc que tu sais faire sans prendre une goutte de sang. Donc voilà, je pense pas que la montre soit livrée avec un truc qui te pique le poignet une fois toutes les heures pour analyser. Non, là, on serait chez les fous.
Mais par contre, ça peut peut-être servir dans certains cas pour les diabétiques, par exemple, qui pourraient vouloir inclure ce type d'information dans leur health book.
Et oui, puis il avait été présenté à une époque un module qui se pluguait sur l'iPhone pour, je crois que c'était Steve Jobs qui avait fait la démonstration d'ailleurs, pour justement se piquer le doigt et vérifier ça.
Oui, mais il fallait effectivement piquer le doigt, c'est pas que tout le monde va pouvoir faire ça. Enfin, oui,
il fallait acheter un module hardware supplémentaire.
En plus, oui.
Mais c'est-à-dire, en voyant l'application, il y a plein de gens qui font le raccourci direct sur la montre hypothétique, hein, qui, je vous rappelle, comme la Sainte Vierge, reste encore une hypothèse, parce qu'on l'a pas vue. Et je pense que là, le raccourci, il est un peu rapide. Peut-être aussi l'idée est d'arriver à rassembler des informations qui viendraient de différents types d'applications, différents types de devices, différents types d'accessoires.
De services même, peut-être des services médicaux.
Absolument. D'autres le font, hein, bah, pas forcément à cette échelle, mais regarde même les petits Français de WeThings qui font la balance, le tensiomètre, etc., etc. Sur leur plateforme, tu peux aussi connecter des objets qui ne sont pas des objets WeThings pour arriver justement à avoir une sorte de big picture de ta santé connectée. Donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien le design de l'appli, ou en tout cas des quelques captures qui ont fuité. C'est joli, c'est très flat design. Et peut-être justement, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure pour Google Now, l'intérêt c'est d'arriver à agréger des données pour en extraire de l'intelligence. Sinon que là, c'est vrai qu'on s'attaque à des données qui sont de l'ordre de l'ultra personnel, parce que c'est de ton corps qu'on parle. Et donc je pense que voilà, ça posera des questions aussi. Il faut que la captation de ces données, etc., soit faite d'une manière absolument 100% transparente. Mais oui, bien sûr, Apple est capable de le faire. Ce serait même étonnant qu'ils ne le fassent pas, parce que quand on a vu le M7 arriver dans le dernier iPhone, on a dit bon bah voilà, ils vont faire des applis.
Ils y vont.
Ben, ils ont maintenant un petit rêve pour le faire.
C'est vraiment effectivement peut-être un marché qui est, comme à chaque fois qu'Apple rentre sur un marché, c'est un marché qui existe déjà, qui est en tendance montante et qui a déjà des acteurs qui sont peut-être un petit peu éparpillés ou pas aussi gros qu'Apple. Et ce que fait souvent Apple, c'est qu'ils unifient et qu'ils formalisent la chose de manière très très puissante, et qu'ils en font de facto une sorte de standard qui peut être adopté par tout le monde. Et là, effectivement, l'idée de pouvoir utiliser tous ces outils pour mieux comprendre et connaître son corps, sa santé et son l'état physique dans lequel on est quelque chose d'effectivement assez séduisant si c'est suffisamment simple et poussé. Donc toi ça te convaincrait, Alexandre, peut-être, ce type d'utilisation pour les objets connectés, pour la technologie portable d'Apple?
Ouais, ben, moi je suis très objet connecté, enfin j'ai tout WeThings quasiment, mais moi il y a un truc qui me paraît bizarre quand je vois ces captures, c'est par exemple l'onglet nutrition en fait. Connaissant Apple et l'envie de simplicité pour les utilisateurs, la nutrition pour moi on peut faire que de la saisie, et saisir toute la journée ce qu'on mange c'est assez pénible, et je vois pas Apple se faire un truc comme ça en fait. Je trouve ça vraiment bizarre, ou je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient inventer pour justement simplifier cette saisie. Et puis pour revenir à ce que disait Cédric, pareil pour le glucose, pour l'hydratation, enfin tout ça, je vois vraiment pas comment ça peut marcher en fait.
C'est vrai que c'est encore des rumeurs effectivement, et ça pose énormément de questions, ces rumeurs. J'en parle parce que c'était le moment avec Android Wear, et que c'est quand même un des rumeurs assez substantielles vu tout ce qu'on sait, mais c'est vrai que ça pose énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse aussi.
Ah bah, je crois que vous venez de mettre le doigt sur le truc qui explique que les études de nutrition sont les choses les plus compliquées en médecine, parce que t'as deux choix pour faire des études de nutrition. Soit tu fais du déclaratif et tu demandes aux gens: bon alors hier soir vous avez mangé quoi? J'ai mangé des pâtes, il y avait un dessert.
Non, et puis combien? J'ai mangé 3 300 grammes de pâte. Non, c'était 200 j'ai... en fait.
Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est très compliqué. Soit tu fais ça avec des prisonniers, parce qu'au moins tu peux contrôler leur alimentation. Ben non, mais c'est bête. Mais c'est vrai que quand on fait, il y avait eu une grande étude sur les consommations de vitamines, les effets sur la santé, qui a duré 15 ans. Son nom m'échappe, mais c'était très compliqué. Ils envoyaient des comprimés aux gens. Est-ce que t'es sûr qu'ils les ont pris, etc. Alors que normalement, les études cliniques, par exemple sur un médicament, là, tu prends des gens, tu les mets dans un hôpital, tu les payes, hein, mais tu les gardes pendant 15 jours avec 8 prises de sang tous les jours, etc. Donc voilà, là, la nutrition dans l'appli d'Apple, ce sera évidemment du déclaratif ou alors quelque chose d'un peu plus créatif. Il y a déjà des apps qui permettent de prendre des photos de ce que tu es en train de manger avec une sorte de reconnaissance, tu vois, genre, ah oui, je vois, c'est un Big Mac. mais ça marche pas pour tout.
C'est sûr.
Il y a la Happy Fork aussi, hein, qui est sortie ou qui va sortir aussi. Donc ça, les gens auraient la quantité. Ouais, donc des gens auraient la quantité d'aliments. Donc après, il suffirait juste de saisir le titre.
Tu peux expliquer de quoi il s'agit?
La Happy Fork de mémoire, c'était une fourchette connectée en fait, et qui, je crois que pouvait mesurer la quantité d'aliments qu'on ingérait, et en même temps, ça permettait, elle vibrait quand on mangeait trop vite, où il y avait plein de fonctionnalités comme ça en fait.
Mais alors tu vois, autant je parle de
rythme d'alimentation en fait.
C'est ça. À mon sens, d'ici à ce que Apple sorte une fourchette connectée, je crois qu'il va quand même couler des éléphants sous les arcs de triomphe. C'est comme ça qu'on dit, non? Bon. Pardon ?
Une montre avec une fourchette qui sort.
Oui, c'est ça, la fourchette comme l'inspecteur Gadget. Non, qui sort, la fourchette qui sort de la montre, tu sais, inspecteur Gadget, sûr, le truc se déplie. Moi, je pense qu'il y a un concept là, Alexandre, il y a un concept. Mm-hmm. Bon, voilà donc pour Android et iOS portables, c'est des choses qu'on va évidemment continuer à suivre. C'est très clair et annoncé officiellement pour Android, c'est pas encore le cas pour Apple, mais on en saura certainement beaucoup plus dans les mois à venir. C'est des choses qui vont se concrétiser avant la fin de l'année, c'est à peu près certain. Bon, on continue donc avec Edward Snowden, toujours lui, encore lui, on ne peut pas y échapper, ou en tout cas on pouvait particulièrement pas y échapper ces deux dernières semaines, puisqu'il était présent virtuellement à South by Southwest, cette conférence très connue du Texas, et également à TED, cette série de conférences également très connue dans le monde entier. Et il était présent en fait virtuellement à South by Southwest. Il a fait une conférence, une interview par Google Hangout interposé. Et à TED, c'était assez drôle et ça a beaucoup mieux fonctionné. Il était là par un petit robot de téléprésence. Vous savez, c'est une sorte de mini Segway avec un écran d'iPad ou un écran tout en haut. Et la personne à l'autre bout peut le contrôler et donc avancer, aller à droite, à gauche, tout ça, regarder ce qui se passe avec la caméra de l'iPad. Bref, il était présent là-bas et il a fait une interview. Et il y a eu... Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées encore une fois. C'est ça ne s'arrête plus, ces révélations sur la NSA et d'autres choses qui se sont passées avec la NSA qui espionne la Chine, avec le matériel dont ils avaient recommandé de ne pas utiliser, les Américains avaient recommandé de ne pas l'utiliser parce que la Chine aurait pu l'utiliser pour espionner les Américains. Il y a des histoires de Obama qui a re-rencontré les présidents, enfin les gens de la Silicon Valley. Il y a en France Orange qui a trahi la confiance de ses clients depuis des années et des années en livrant leurs informations à la DGSE. Il y a du filtrage de sites internet sans juge qui se met en place en France. Il y a la neutralité du net qui est attaquée par l'Union européenne. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent. Moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est justement non pas Edward Snowden lui-même, mais le message de Edward Snowden, et peut-être commencer à faire un premier bilan, maintenant on peut, de toute cette histoire de la NSA et des révélations de Snowden. Alors,
bon, on n'est pas couché.
Bon, on va essayer de pas faire 4 heures dessus non plus, mais moi j'ai trouvé ces deux interviews d'Edward Snowden, que je mettrai en lien d'ailleurs dans les notes de l'émission, mais ces deux interviews absolument fascinantes pour plusieurs raisons. D'une part parce que ce pauvre garçon est exilé en Russie, surtout quand on sait ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est ubuesque, exilé en Russie, et il a été d'une clarté, d'une honnêteté et d'une simplicité et d'une... Il a été raisonnable dans tout ce qu'il a dit à un point qui est assez surprenant. Et la chose que j'aimerais pointer du doigt en quelque sorte, c'est que il y a beaucoup de personnages comme ça qu'on décrit comme des gens de du net qui sont un petit peu des sortes de hackers bizarres qui veulent la fin des organismes de qui oppriment le peuple, des organismes d'espionnage et de gouvernement horribles qui oppriment le peuple. Edward Snowden, en fait, il est très très loin de l'image qu'on a, par exemple, de Julian Assange, qui fait plein de choses très bien, hein, mais Julian Assange, c'est vraiment un mec anti-système, qui est presque, pas anarchiste, mais enfin, qui mène un combat et qui crée presque le message autour de lui-même. Snowden, c'est pas du tout ça. Et aujourd'hui qu'on l'a entendu et on sait de quoi il parle et ce qu'il veut, on se rend compte à quel point c'est quelqu'un d'intelligent, de posé, de réfléchi, qui a vraiment essayé d'accomplir quelque chose. Et c'est pas un énervé, quoi. C'est un type qui a une réflexion très claire, qui a vu un problème, qui a essayé de trouver une solution à ce problème, et il dit pas, par exemple, la NSA doit disparaître, c'est l'oppression. C'est pas ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est il faut que la NSA respecte la loi pour pouvoir nous protéger des menaces que l'on connaît. Donc, il veut simplement recentrer les choses de manière telle qu'elles ont été prévues à l'origine par les gens qui ont écrit les lois. Il a notamment fait un appel. Donc il y a d'une part le recentrage dont je veux parler. Il veut pas tout faire péter. Il veut simplement un recentrage. Et il a aussi fait un appel à la communauté des informaticiens en disant c'est de nous que viendra la solution. C'est-à-dire que la solution, c'est de créer des outils chiffrés, qui vont chiffrer de bout en bout nos communications, qui doivent être incroyablement faciles à utiliser et même intégrés par défaut à tous les outils. Et là, il parle à tous les gens qui créent des outils informatiques de communication. Donc, il faut que ça soit chiffré de bout en bout et facile à utiliser. C'est très important, cette deuxième partie, hein. Il faut que ça soit très facile à utiliser. Et le but, encore une fois, n'est pas d'empêcher toute enquête et espionnage presque de la NSA. Le but est de faire en sorte que ça soit suffisamment difficile et compliqué pour que les gens qui sont en charge de notre protection soient obligés de choisir les communications qu'ils vont vouloir écouter et lire. Donc, le rendre suffisamment difficile pour qu'ils ne puissent pas collecter de manière indiscriminée, de manière globale, tout ce qui passe par tous les réseaux. Donc, j'ai trouvé il a dit tout un tas de choses, c'est vraiment passionnant, je vous encourage à aller les lire, mais j'ai trouvé ces deux points vraiment, vraiment importants, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'opinion la plus raisonnable et sérieuse que j'ai entendue sur tout ça depuis le début, et ça m'amène à une conclusion qui est que, aujourd'hui que on connaît toutes les histoires de la NSA et que ça s'arrête pas en plus et on sait tout ça et qu'on connaît maintenant également Edward Snowden, ce qu'il veut, la manière dont il a fait les choses, la responsabilité avec laquelle il a livré les informations et avec laquelle il a provoqué ce débat qu'il veut être un débat et non pas une condamnation, mais il veut qu'on se pose la question. Je pense qu'on peut aujourd'hui dire ce qu'on pense de Edward Snowden. Au début, il fallait attendre de comprendre, de bien analyser, de tout savoir. Aujourd'hui, ça fait 8 mois et on peut décider, en tant que journaliste et analyste et observateur de ce monde, on peut décider de ce qu'on pense de Edward Snowden. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose d'héroïque et qui sera considéré dans les années à venir comme un héros et un donneur d'alerte. Dans toute cette affaire. Et je sais que en France en particulier et dans les opinions de certains, c'est la réponse évidente. Oui, évidemment, Edward Snowden est un type formidable et oui, la NSA c'est horrible. Mais quand on est un petit peu sérieux, on ne peut pas baser ce type d'opinion juste sur nos impressions. Et oui, nos impressions à l'origine étaient « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec la NSA ? On pensait pas qu'ils allaient si loin. » Mais ça, c'est les impressions, les réactions à chaud. Aujourd'hui, on peut vraiment juger de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est aujourd'hui que les opinions qu'on va donner comptent. Donc, voilà la mienne. Après ma longue description, encore une fois, je me retourne vers mes deux camarades. Peut-être, d'abord, tiens, pour changer, Alexandre, puisque tu sembles être suffisamment à l'aise pour nous parler de tous ces problèmes, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça et est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou est-ce que je me fourre le doigt un peu dans l'œil ?
Bon, et moi j'aurais pas dit héroïque, j'aurais dit très très courageux. Mais bon, dans c'est vrai que s'il a fait quelque chose de très courageux en quittant son pays, en étant être obligé à l'expatrier, enfin tout ça. Par contre, moi la chose qui m'a plus marqué dans ce qu'il a dit, c'est quand il a pris l'exemple de l'attentat de Boston et d'un autre tentative d'attentat. En fait, où il disait que la Russie avait alerté le gouvernement américain sur une tentative d'attentat des deux frères, là, dont je ne me rappelle plus du nom, et que la NSA était tellement focalisée sur la surveillance de masse qu'ils n'ont pas vu du tout l'attentat arriver. Et que pareil, il y a le père d'un terroriste qui a été rendre visite à son ambassade pour dire ne faites surtout pas entrer mon fils sur votre territoire, il pourrait faire des choses dangereuses. Et pareil, ils en ont pas tenu rigueur et ils sont restés sur l'idée de surveillance de masse. Donc moi, ça déjà, par rapport à ça, si ce qu'il a fait a permis de sortir de ce dogme et pouvoir éviter des attentats ou d'autres choses de ce style, c'est déjà énorme.
C'est vrai que l'une des choses qu'il disait, c'est que c'est même contre-productif de oui, réunir absolument. Toutes ces... Oui.
Ouais. Ensuite, par rapport à ce que tu dis et par rapport surtout à ce qu'il a dit, que c'était aux informaticiens de chiffrer de bout en bout les communications pour justement éviter cette surveillance de masse et qu'il faut que ça soit ciblé par la NSA pour pouvoir capter les communications d'une personne qui chiffrerait, bah, moi je trouve que c'est totalement en désaccord avec deux news qu'on va voir par la suite, à savoir celle de Gmail et celle de Microsoft et .mail. À savoir qu'on aura beau chiffrer de bout en bout les communications, si au final les détenteurs des serveurs, donc Google en l'occurrence et Microsoft, continue d'aller farfouiller dedans et espionner ou bah ça sert à rien quoi.
Ouais. Le chiffrage de bout en bout c'est différent.
En l'occurrence, chez moi, peu importe par où ça passe.
C'est ça. C'est-à-dire que, alors, ça pose le gros problème que tu pointes du doigt, Alexandre, effectivement, c'est que Gmail, la manière dont ils font leur argent, c'est en lisant, entre guillemets, hein, c'est des robots, en lisant vos emails et en vous proposant de la publicité, qui est en accord, a priori, avec vos centres d'intérêt. Et pour faire ça, il faut que eux, sur leur serveur, ils y accèdent, effectivement. Donc là, c'est pas du chiffrage de bout en bout. Et c'est d'ailleurs une chose qu'ils ont fait. Ils ont mis en place, le plus qu'ils pouvaient, c'est-à-dire chiffrer entre votre ordinateur et leur serveur, et puis ensuite entre leur serveur et le serveur de la personne qui reçoit, s'il est sur Gmail bien sûr. Mais effectivement, ça pose la question du business model, du modèle d'affaires. Si Gmail veut continuer à vous proposer le service gratuitement, on peut pas chiffrer de bout en bout. Mais là encore, c'est une réponse effectivement que il va falloir que les développeurs amènent. Et peut-être que on voit bien que les gens sont prêts à payer une somme très raisonnable pour un service comme WeChat. Non, WhatsApp, pardon.
WhatsApp.
C'est $1 par an.
Même
peut-être
pas,
que la réponse
c'est gratuit. Hein. Moi, je viens d'avoir une mise à jour de mon WhatsApp me disant oui, ça y est, votre abonnement a été repoussé d'un an gratuitement.
Super.
Donc,
peut-être que les gens seraient prêts à payer une somme raisonnable pour ce genre de service. Mais
ils le font déjà. Hein. Ils le font déjà. Google Apps, quand tu es une entreprise et que tu t'abonnes à Google Apps pour avoir, c'est-à-dire Drive, toutes les applications bureautiques et Gmail pour ta PME, par exemple, tu payes, ça coûte quelques dizaines de dollars par mois, etc. Et là, il n'y a pas de pub. Hein. Mais donc, de fait, si Google voulait le faire, il pourrait le faire.
Ouais, mais il y aura toujours besoin qu'ils accèdent aux données, ne serait-ce que pour l'indexation. Pour par exemple, si j'ai un plugin comme Rapportive, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet d'avoir des informations contextuelles sur le contact avec qui j'écris. Donc, ils ont besoin d'avoir l'information sur le contact, sur les métadonnées. Donc, enfin. Vraiment,
alors effectivement, chiffrage de bout en bout, le chiffrement pardon de bout en bout, ça permet plus de faire ce genre de choses, c'est clair.
Absolument. C'est-à-dire que tout à coup, le gros intérêt de Gmail, c'est quand même de dire, alors attends, je me souviens plus, Patrick m'avait parlé d'un logiciel il y a 4 ans. Et voilà, je cherche Béja dans mon Gmail et tout à coup, ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, là, c'est vrai que ce serait un tout petit peu plus compliqué, ou alors il faudrait beaucoup plus de puissance machine. Enfin, ce serait.
Mais peut-être qu'il y a des réponses qu'on ne connaît pas encore, hein. Et moi, je pense que le fait de faire cet appel à la communauté des développeurs, c'est la bonne réponse parce que, faire appel à ils sont en train de légiférer, Obama est en train de rencontrer les CEO de la Silicon Valley, tout ça, oui, ok, mais pour moi, la réponse passera par les informaticiens, par la communauté qui a créé Internet et tous ces outils, finalement.
Il y a déjà des choses qui existent. Hein. Moi, j'ai vu au Salon de Barcelone le mois dernier, il y avait cette boîte qui s'appelle Geekphone, qui est une boîte espagnole qui s'est alliée aux auteurs d'un logiciel, d'une suite de logiciels américains qui s'appelle Silent Circle, qui permettent sur ton mobile d'installer une petite suite d'outils qui vont te permettre, avec des gens qui auraient les mêmes, évidemment, de faire du chat sécurisé, de faire de la visio sécurisée, de faire, je sais plus s'il y a du mail
mais c'est
sécurisé.
Pas c'est pas encore assez simple tout ça, à mon avis.
Ah si, une fois que c'est installé, non, mais c'est simple,
bien
c'est
sûr
aussi,
mais
c'est aussi
dire...
simple que Skype, hein,
mais il faut que Apple, Google, Microsoft trouvent des solutions pour le faire, parce que tant que ça sera quelqu'un d'autre à l'extérieur, ça sera pas suffisamment intégré dans
notre... compliqué parce que c'est une question de besoin, et Snowden le dit bien,
c'est vrai.
Ce qu'il faut éviter, c'est pas tant d'empêcher les services de police de faire des enquêtes, même si ça peut être tentant, mais si tu t'appelles Paul Bismuth, mais d'éviter d'avoir des écoutes à très grande échelle. Enfin, tu vois, là, c'est même plus les grandes oreilles, c'est les très très grandes oreilles,
ouais.
Parce que le métier de la NSA depuis le début, c'est de capter tout le trafic qu'ils peuvent et de stocker tout ce qu'ils peuvent et de faire de l'intelligence après. Moi, je me souviens au moment du 11 septembre, on disait la NSA n'a pas réussi à déjouer les attentats. Ouais, mais une fois qu'ils ont su quoi chercher, c'est-à-dire qu'ils ont eu des noms, des numéros de téléphone, etc., en deux jours, ils avaient redémêlé tous les chevaux de ce qui s'était passé avant et des communications de qui avait appelé qui habitait où, etc. Mais la NSA, faut ils ont deux métiers, en fait, ils sont parallèles. Ils ont la collection de données à très très grande échelle. Ça, c'est par exemple, je sais pas, j'arrive à me brancher entre les serveurs internes de Google. Google, ils l'ont eu mauvaise hein, sur ce coup-là quand même, parce que les mecs leur font Prism par la porte de devant et le reste par la porte de derrière. Bon, c'est pas très chic. Et surtout quand évidemment pendant ce temps-là, Prism, Google a pas le droit d'en parler. Enfin, c'est quand même voilà, tout ça est géré par les tribunaux secrets. Enfin, c'est très très classe pour une grande démocratie. Mais ça et de l'autre
mais
côté,
alors
ils
justement,
ont des enquêtes beaucoup ciblées. Ils ont des cibles très précises, des recherches, voilà.
Par rapport à Snowden, justement, pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es un vrai journaliste, pour le coup, pour une fois qu'on a un vrai journaliste, on peut poser la question.
Non, je fais de la télévision, ça n'a rien à voir.
mais oui, qu'est-ce que tu penses finalement de cette histoire? Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, comme je le disais, juger de l'action de Snowden, ou est-ce que...
Oui, je pense, parce que on commence, soit ce type est un manipulateur génial, ouais. Soit a priori, je pense que c'est la vérité est plus de l'autre côté, c'est-à-dire oui, de fait, il a l'air absolument posé, intelligent, il a réfléchi ce qu'il a fait, il a pris des risques absolument inconsidérés avec sa sécurité personnelle, tu le disais, comment il s'appelle le garçon de WikiLeaks,
Assange.
Voilà. Comment dire, Assange, c'est un peu Julian Assange, c'est un peu antisocial, tu perds ton sang-froid, et à côté d'Assange, Snowden, c'est Gandhi, tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Et,
ouais.
et c'est bien, c'est intéressant, et c'est bien parce que tout à coup, la communauté des gens qui depuis longtemps se posaient la question de la protection des données personnelles se trouve une sorte de champion qui n'a pas les côtés un peu repoussants d'Assange, très très je moi, etc., etc. Enfin voilà. Et où on sent qu'il y a des enjeux qui sont plus personnels. Donc ouais, non, Snowden, moi j'ai vu le...
Même si on condamne pas totalement ce qu'a fait Assange, hein, au contraire, il a permis beaucoup de choses,
mais
la personnalité du... Ouais.
Il a fait des choses extraordinaires, et il a lui aussi pris des risques que peu d'entre nous auraient consenti à prendre. Mais voilà, Snowden a un côté un peu plus articulate, comme diraient les anglo-saxons, compréhensible par tout le monde, et il pose extrêmement bien les enjeux. Parce qu'évidemment, lui, la machine, il la connaît de l'intérieur. Son speech à TED est remarquable. Parce que c'est très clair. En plus, ce type est un orateur absolument hors pair. Enfin, il fait une pédagogie merveilleuse autour de ces questions-là. Et là encore, voilà, il a pas le sabre entre les dents. Il dit juste, voilà, il va falloir trouver d'autres systèmes parce que celui-là est allé un peu loin. Et c'est rien de dire que c'est un peu loin parce que la NSA, c'est quand même, ça a commencé comme une agence secrète qui a fini aujourd'hui par fouler aux pieds la loi, la Constitution américaine et sa propre charte. Donc
c'est ça qui est le pire. Et on entend parler chaque semaine aujourd'hui. Je veux dire, si ça s'était arrêté à Prism, déjà ça aurait été un problème, mais bon, encore un problème vraiment sérieux. Mais toutes les deux semaines, il y a une nouvelle histoire hallucinante et le mensonge de la NSA au Congrès qui est censé... Enfin, je veux pas me relancer dans l'histoire, mais vraiment,
vas-y.
Les choses sont... Non, mais on en parle toutes les deux semaines, donc je pense que les choses sont claires pour nos auditeurs. Mais vraiment, c'est quelque chose qui s'arrête pas depuis 8 mois. Toutes les deux semaines, toutes les 3 semaines, on a une nouvelle histoire incroyable. Comme je le dis, les organismes qui sont censés surveiller... Pour conclure, hein, je vais dire une chose, c'est que il a très bien dit la chose lui-même, j'allais dire Assange, Snowden. Il a dit j'ai vu que la Constitution était bafouée et j'ai voulu faire quelque chose pour résoudre le problème. Et il parle de la Constitution qui promet qu'il n'y aura no unreasonable search and seizure, qui dit qu'il n'y a pas de recherche et d'appropriation déraisonnable. Des informations des propriétés des individus privés, ça c'est dans la Constitution très clairement, et ça a été transformé par la NSA, la Constitution, hein, c'est quand même quelque chose d'important, et quelque chose, un document par lequel jurent tous les plus grands républicains, les plus à droite aux États-Unis, donc même eux, et ça a été transformé par la NSA en bon, les appropriations, ça va, mais on cherchera après, on verra. C'est juste la recherche, on n'est pas sûr. Mais l'appropriation, on le fait. Donc c'est quand même grave.
En gros, ils disent on chopera toutes les données qu'on veut, mais on vous promet de ne pas
de ne pas les chercher.
Un usage déraisonnable. Ouais. Mais moi, je conseillerais aux gens quand même, parce que la NSA est pas un truc qui date d'hier. Hein, ça date d'avant même la guerre froide. Il y a 2 bouquins merveilleux qui datent pas d'hier, eux non plus, mais que vous pouvez trouver neuf ou d'occasion, malheureusement uniquement en anglais, je pense, sur Amazon. Qui sont les 2 bouquins de James Bamford, BAMFORD, sur la NSA. D'ailleurs, d'abord, il y a le livre fondateur qui s'appelle The Puzzle Palace, où il a quasiment révélé l'existence de la NSA et son histoire. Ça, c'est un pavé, mais c'est absolument passionnant. Et il y a un 2e bouquin qui s'appelle Body of Secrets. Et Body of Secrets, c'est l'histoire du 20e siècle vue par le prisme de la NSA et de son intervention dans toutes les grandes crises géopolitiques de la deuxième moitié du 20e siècle. Ces 2 trucs, ça se lit, on se demande pourquoi Hollywood ne s'en est pas saisi. Enfin, c'est un peu épais quand même, mais je vous en recommande la lecture pour comprendre que ce que fait la NSA aujourd'hui, c'est ce qu'elle faisait déjà il y a 50 ans, évidemment avec d'autres moyens.
Bon, on va conclure sur cette... Tu peux répéter le nom de l'auteur quand même? James Bamford,
B-A-M, M comme Michel, F-O-R-D.
Très bien.
Je te donnerai les liens pour que tu les mettes dans les notes de l'émission.
Magnifique, merci bien Cédric. Bon, donc voilà nos réflexions sur Snowden, et on va continuer avec des réflexions sur les étonnants développements, ou pas forcément étonnants développements, des histoires dont on avait parlé il y a 2 semaines. D'une part, le rachat de SFR, finalement, j'ai pas envie de dire coup de théâtre, mais un petit peu étonnant, Vivendi a choisi Numéricable plutôt que cet improbable montage financier. Je sais pas si tu peux commenter sur la chose, Cédric, étant donné que tu travailles pour TF1.
Mais je le fais bien à l'antenne d'LCI, donc si tu veux.
Alors, ça ira. Donc, ce montage un petit peu improbable entre Bouygues et Free, qui n'a pas été choisi par Vivendi pour le rachat d'SFR, a priori, parce qu'avec Numéricable, les choses sont plus simples et plus rapides, mais en même temps, Bouygues a fait une offre surprise renchérie pour continuer à montrer son intérêt pour SFR en intimant, j'allais dire, quand même peut-être pas, mais en invitant Vivendi à reconsidérer la chose. A priori, pour le moment, ils font de la résistance et ils disent on est en négociation exclusive avec Numéricable pendant 3 semaines, et voilà, et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'a choisi le board. C'était... Bon, beaucoup d'entre vous m'ont dit sur Twitter « Ah, voilà, Patrick, t'as vu, t'avais dit que ça serait Bouygues, mais en fait, non, c'est Numéricable, tu t'es planté. » Je sais pas si on avait dit que ça serait forcément Bouygues, on a juste expliqué leur montage invraisemblable, mais bon, effectivement, en tout cas, si on l'a présenté, hein. Oh, bah, il était étonnant quand même. Je rachète SFR, donc ça me libère des antennes, donc je peux revendre ces antennes à Free.
C'est-à-dire que si l'offre avait été de prime abord acceptée par SFR, l'autorité de la concurrence aurait de toute façon dit, attendez, il y a un problème, il y a un truc qui va pas dans votre histoire, c'est que vous allez vous retrouver à la tête de 2 des 3 plus grands réseaux mobiles en France, donc c'est pas possible.
D'accord, mais c'est quand même un petit c'est quand même un petit peu étonnant, plus compliqué, on va dire, que simplement Numericable rachète SFR.
Oui, la raison pour laquelle Vivendi, enfin de manière, là je ne fais que répéter les dires du conseil de surveillance de Vivendi, la raison pour laquelle ils ont choisi Numericable, c'est d'abord le prix, parce qu'il y avait plus d'argent frais dans l'offre de Numericable. Maintenant, évidemment, qu'il y a une nouvelle offre de Bouygues qui est sortie, alors que de toute façon, Vivendi ne peut plus rien dire. Ils sont pour 3 semaines en négociation, c'est-à-dire pour encore une semaine et demie, en fait, maintenant, en négociation exclusive avec...
Numericable.
Avec Numericable. Mais j'imagine que ça leur pose question quand même. C'est assez inhabituel. C'est vrai que c'est une sorte de feuilleton à rebondissement. Et comme je l'avais dit sur LCI la semaine dernière, ce qui est intéressant quand on connaît l'histoire de la vie des affaires, et ça c'est des choses que j'ai lues ailleurs aussi, c'est que pour ce faire, il a quand même fallu que Martin Bouygues et Xavier Niel se mettent autour d'une table, alors que bon, je pense pas qu'il voilà.
Il s'adorait particulièrement avant ça.
Bah, je sais pas. Je pense qu'il y a, c'est un petit côté tonton flingueur, tu vois. Je pense qu'il y a toujours eu un petit peu de second degré entre ces deux-là. Ouais. Et de l'autre côté, de toute façon, pour racheter SFR, ça voulait dire aussi se mettre autour d'une table avec Vincent Bolloré, qui à mon avis passe pas non plus ces dimanches à faire des barbecues avec Martin Bouygues. Donc voilà. C'est de toute façon une histoire absolument passionnante. Mais je pense qu'on aura, sinon le dénouement, du moins des développements d'ici la fin de la semaine prochaine.
C'est ça. Donc au prochain épisode, normalement, on aura la suite. Tu interviens, Alexandre, hein, si tu as des choses à dire.
Non, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce que va décider Vivendi. Et de toute façon, l'offre de Bouygues n'a pas l'air d'avoir ému beaucoup Vivendi durant ses négociations avec Numericable.
Mais surtout, ne peut rien dire. Oui. Surtout pas. Et d'ailleurs, même Numericable a dit, attendez, si Vivendi se met à parler de cette offre ou à réfléchir de manière ouverte à la pertinence de cette offre, ils vont nous devoir des centaines de millions d'euros de dédits du fait de la période de négociation exclusive. Donc, bien sûr, on n'entendra pas un son sortir de chez Vivendi. Pour la petite histoire, dans le conseil de surveillance de Vivendi, il y a un seul membre qui a voté pour l'offre Bouygues, enfin, en tout cas, de manière ouverte, c'est Pascal Cagny, l'ancien patron d'Apple Europe. Il se trouve que c'est un ami, ça n'a pas de lien.
D'accord. Bah écoute, au moins on le sait maintenant. Autre suite de l'histoire de l'épisode précédent, la fameuse Dorian Satoshi Nakamoto, dont je vais pas vous refaire le résumé, hein, on en a assez parlé dans l'épisode précédent, mais il a publié un communiqué de presse, ou en tout cas une déclaration officielle, disant qu'il niait de manière catégorique et inconditionnelle être le créateur de Bitcoin, et il a complètement nié l'histoire de Newsweek. Et là, on est dans une situation intéressante d'un point de vue journalistique, parce que l'histoire de Newsweek ne semble pas vraiment tenir complètement, même si on n'a pas d'information claire avec des preuves. Mais en même temps, Newsweek ne veut pas retirer leur histoire, ne veut pas publier de retrait, en fait.
De démenti,
merci Cédric. Et donc, il semble de plus en plus crédible le fait que Dorian Nakamoto ne soit pas le créateur de Bitcoin, ça serait autre chose. Il ne soit pas le créateur de Bitcoin, et pourtant Newsweek est dans une position inconfortable. Bon, on n'a pas vraiment de conclusion à l'affaire, mais
c'est rigolo parce que t'imagines le communiqué quand même. Monsieur Satoshi Nakamoto aimerait faire dire qu'il n'est pas Monsieur Satoshi Nakamoto.
c'est exactement ce qu'aurait dit le vrai Dorian Satoshi Nakamoto.
Oui, c'est pas faux. Oui, c'est
moi,
pas faux.
J'ai tendance à penser. Moi, j'avais lu le papier de Newsweek quand il est sorti, et c'était genre waouh, quelle enquête. Mais de fait, on sentait qu'il y avait des choses qui étaient de circumstantial evidence, comme diraient les Américains. C'était machin a dit que, et donc voilà, il est probable que ce soit lui parce que voilà son métier si proche, etc. Maintenant, le démenti pourrait être juste un rétro-pédalage de Satoshi Nakamoto, mais c'est dur pour Newsweek parce qu'ils en ont quand même fait leur une. C'est la renaissance de Newsweek. Enfin, et puis c'est un papier haletant à lire. Mais on sent bien de toute façon, même au travers du papier, la réticence de Nakamoto à parler du truc. Donc, mais pourtant, il les repousse pas en disant c'est pas moi. Enfin, c'est voilà.
Il a clairement dit c'est pas moi.
Mais il l'a dit après l'apparition.
Ah bah oui, mais oui, bon.
Tu vois, c'est écoutez... comme si Edward Snowden te disait non, moi j'ai donné une clé USB à un ami.
Moi je pense, bon, on verra. Mais a priori, moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est pas lui. Hein. On verra peut-être qu'on
quel
sera
quel dommage, surpris. Quelle histoire.
Bon, c'est la fin de nos trois histoires, trois infos à retenir. On va continuer avec nos news et rumeurs, bien sûr. On a des trucs un peu geekeux quand même, avec des histoires d'imprimantes 3D, de moteurs 3D et de plein de choses 3D, et de robots qui écrivent des articles dans les journaux. Mais avant ça, donc, je vais continuer les remerciements très chaleureux de personnes qui ont choisi de soutenir l'émission sur Patreon. À commencer par, je vais vous dire donc encore quelques noms, c'est-à-dire Laroumette, Billy McGuinness, Philippe Fouillen, Mathieu Rouvin, Ducret, Alguernon 2014, Marion, Laurent, Hugo Duprat et Jonathan. Merci vraiment encore une fois du fond du cœur. Comme on le disait, le Patreon fonctionne encore assez bien. On a suffisamment expliqué ce que c'était que Patreon. Et donc, au lieu de le réexpliquer encore une fois, comme je le disais en début d'émission, je vais plutôt poser la question à Alexandre, qui soutient l'émission. Toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de soutenir l'émission en quelques mots, hein, on va pas en faire des tonnes, mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, je suis curieux aussi, hein, moi, mais à sortir le portefeuille?
Eh ben, en fait, ça fait plusieurs années que j'écoute l'émission, et c'est vrai que j'avais jamais donné, ne serait-ce que pour les pourboires. Vous allez me jeter des pierres.
Là, je vais rien te jeter du tout, hein, plutôt des merci, hein.
Pour les t-shirts, non, j'avais vraiment jamais rien acheté, parce que j'avais pas forcément le temps, l'envie, l'argent, et c'est vrai que Patreon, je trouvais le système assez sympa, le côté de payer à l'émission, donc c'est pour ça, en fait, tout simplement.
D'accord, donc c'est l'émission t'apporte suffisamment pour que
Tu donnes $150 par épisode, donc c'est vraiment, on est très très content pour toi.
Ah oui, ça. Alors là, merci.
J'ai hâte qu'elle passe en hebdomadaire, du coup.
Ah oui, a priori c'est pas au programme, hein. Comme je disais, j'aime bien le format bimensuel, mais. Donc voilà, effectivement, Patreon est toujours disponible. C'est patreon.com/rdvtech. Si vous pensez que l'émission vous apporte du bon temps ou de l'information, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Ça fera forcément très plaisir. Et on continuera à en parler de toute façon. Mais voilà, c'est le petit quart d'heure, les petites 5 minutes, les petites 3 minutes Patreon. Et remerciements encore une fois, puisque c'est vraiment la chose que je veux souligner à chaque fois. C'est à quel point je suis reconnaissant envers tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Oui ?
Pardon. Non, je faisais le calcul dans ma tête, donc 853. Ça a augmenté depuis tout à l'heure, fois X émissions, fois. Mais c'est très bien.
Mais oui.
Mais c'est merveilleux. Tu vas enfin pouvoir changer de micro.
Oh, bah là, oui, je peux changer de micro, d'ordinateur, de. Mm-hmm. Oui, exactement. Oui. Non, mais c'est.
Mais que vas-tu faire de tout cet argent, Patrick?
Bah écoute.
Est-ce bien raisonnable?
C'est une très bonne question. Que vas-tu faire de tout cet argent? C'est une des choses dont on avait discuté dans le Q&A, le fameux question-réponse que j'ai fait. J'ai pas tellement cette honte de l'argent, si tu veux. Il y a beaucoup de gens, surtout dans le monde des podcasts, c'est marrant, j'en parlais avec d'autres créateurs de contenu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, dans le podcast, on a un petit peu honte de parler d'argent, comme si c'était quelque chose que, non, vous inquiétez pas, moi, c'est pas, vous savez, c'est pas pour moi, c'est pour le matériel, hein, ou alors, vous inquiétez pas, non, moi, je suis une association, et, c'est vrai que moi, j'estime, je suis un petit peu plus anglophone dans cette idée, c'est que, j'en parlais l'autre jour, mais si les gens estiment que, ils apprécient suffisamment l'émission pour, donner de l'argent.
De temps en temps, oui.
C'est ça. Et en plus de ça, évidemment, l'émission reste gratuite, hein, la question n'est même pas là, la question n'est pas de rendre l'émission payante, mais si les gens estiment que, l'émission leur apporte suffisamment pour qu'ils veuillent, récompenser la personne qui a créé l'émission, ben moi je suis content. Alors bien sûr, il y a d'une part les micros dont j'avais évidemment parlé, et l'ordinateur. Maintenant, je vais peut-être acheter un PC, un Mac, c'est possible, parce que effectivement, il a vraiment bien marché. Ouais, c'est fou, hein. Mais tu vois, ensuite, moi j'achèterai des pâtes, j'achèterai des téléphones, des trucs. C'est quand tu vas acheter ton magazine dans le kiosque, tu vas pas ensuite regarder est-ce que le mec il s'est acheté une nouvelle carte graphique avec l'argent qu'il a gagné en faisant son en créant son magazine. Donc
tu pourrais investir, tu pourrais enfin faire de la vidéo par exemple.
Bah c'est j'y pense hein. Non mais j'y pense, tu sais, mais enfin avec ce type, avec le succès du Patreon que j'attendais vraiment pas, je pense à plein de trucs. Plein de trucs. Mais je ne sais pas si la vidéo est forcément la bonne réponse.
Mais c'est une discussion intéressante.
Ouais, des discussions intéressantes qui seraient très longues, mais on est là pour parler plutôt de technologie et de nouvelles et de rumeurs. Donc on va se lancer plutôt dans cette discussion-là en parlant de la chose qui m'excite le plus depuis ces 2-3 dernières années. Oubliez les montres, la technologie portable et toutes ces bêtises et les Google Glass. Parlons plutôt de la vraie prochaine révolution de l'informatique en général et de la technologie, c'est les imprimantes 3D. Et HP vient d'annoncer qu'ils allaient, bon c'est un petit peu comique, hein, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une annonce en juin, mais ils vont parler d'imprimantes 3D. Évidemment quand on parle d'imprimantes, on pense forcément à HP, et il y a donc cette entrée a priori qui est plutôt confirmée puisqu'ils ont dit qu'ils allaient faire une annonce d'HP sur ce marché. Et ils ont dit deux choses. D'une part, on a résolu... il y a deux problèmes avec les imprimantes 3D. D'une part, c'est trop lent. Et d'autre part, les surfaces sont pas lisses. Les surfaces créées avec les imprimantes sont pas lisses. Et on pense qu'on a pu résoudre ces deux problèmes. Et donc, il risque d'y avoir des imprimantes 3D vendues par HP. Une chose quand même à préciser, c'est qu'on n'est pas encore... a priori, à l'arrivée des imprimantes pour les consommateurs finaux. A priori, ça serait plutôt du prosumer, on va dire, si on veut utiliser un néologisme. Donc, des imprimantes peut-être un petit peu plus chères que les consommateurs finaux pourraient peut-être se payer, mais qui seraient a priori plus destinées à des petites structures professionnelles, voire des structures comme Office Depot ou ce genre d'endroit où on peut aller se faire imprimer des trucs avec du vrai papier, des imprimantes classiques. Là, peut-être qu'on pourrait se faire imprimer des objets en 3D. Excitant, pas excitant, moi ça me
très très excitant parce que bon il y a déjà plein de modèles sur le marché, mais c'est vrai que je pense que c'est sur ce segment-là plutôt que sur des segments très grand public que les avancées vont se faire le plus rapidement. Je m'explique. Aujourd'hui et même demain, est-ce que toi ou moi on va aller s'acheter une imprimante 3D? Bon, à part les plus geeks d'entre nous qui vont se l'acheter, pourquoi? Parce que ça existe et parce que ça permet de faire des mini pièces, des figurines Star Wars. Voilà, l'utilité quotidienne de ce genre de choses pour le mettre chez toi est pour l'instant discutable. En revanche, c'est un peu comme les photocopieuses, tu vois. La photocopie est quand même une technologie absolument merveilleuse, mais jusqu'à ce que les tout-en-un arrivent dans les maisons, mais qu'on achetait d'abord comme des imprimantes, c'est des choses qu'on allait faire à l'extérieur. On allait chercher la photocopieuse du quartier, la celle du bureau de poste, etc. Et je pense que les besoins qu'on va avoir réels et quotidiens d'impression 3D, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, j'ai cassé le bouton de ma machine à expresso, etc., etc., c'est plus des choses qu'on ira faire avec sa clé USB, comme aujourd'hui je vais faire des tirages photos chez le photographe du coin avec ma clé USB.
Faire quand imprimer ton mémoire de thèse ou machin.
Oui, ou quand je veux une jolie photo plutôt que ce que sort mon imprimante à jet d'encre habituelle, etc. Donc là, oui, là je pense qu'il va y avoir des vrais grands marchés, en plus de ceux dont l'impression 3D sera un truc quotidien. J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps qui m'a absolument ravi. Ça se passe à Barcelone, dans la Sagrada Familia, la sublime basilique, parce qu'en fait c'est pas une cathédrale, construite par vous me corrigerez, cet architecte
je pense pas que ça
espagnol.
Soit blablablam.
Non mais oh flûte, c'est ça de faire des émissions très tard le soir et d'avoir un enfant qui se lève très tôt le matin et jusque là il y a tout un service qui faisait des modèles, des maquettes, hein, parce que c'est une cathédrale, enfin une église qui est encore en construction 50 ans après.
Tu peux le dire en de vive voix, hein, Alexandre.
Oh non, c'est que je voulais laisser la primeur.
Vas-y.
Non, c'est Gaudi, non, c'est
Gaudi, voilà, absolument. Je vous engage à aller le visiter, c'est juste proprement génial. Et c'est à peine, ça y est, ils commencent à pouvoir dire que c'est presque terminé. En fait, ce sera vraiment terminé dans 15 à 20 ans. Donc, ils ont un énorme besoin de faire des maquettes pour arriver à projeter des choses, imaginer ce à quoi les choses vont ressembler ou recréer des parties, etc. Jusque-là, c'est des choses qui se faisaient à la main, tu vois, avec ta petite lime et soit du bois, des polystyrènes, des trucs. Et là, ils sont dans une des caves de l'église et ils ont deux gigantesques imprimantes 3D avec lesquelles ils peuvent recréer des pans entiers de l'église. Et voilà, voilà. On manque pas d'application.
C'est pas encore tout à fait.
Non, c'est pas avec ça qu'ils vont faire des murs. Tu vois ce que je veux dire?
Non, bien sûr.
Une utilisation quotidienne et professionnelle qui justifie ce genre d'investissement. Je pense pas qu'on en ait encore au jour où le grand public va mettre, je sais pas, 500. Alors pour l'instant, c'est même pas ça parce que c'est au moins 1000 euros pour avoir une imprimante, bon, pour faire des petites pièces. Donc je pense que de fait, ce marché prosumer, ces imprimantes de haut moyenne gamme, HP a raison de se positionner sur ce segment-là plutôt que sur celui des hackers, des makers et des geeks et des bricoleurs qui sont déjà servis par des machines qui peuvent d'ailleurs monter eux-mêmes.
Oui, MakerBot, etc. Exactement. Mais effectivement, c'est a priori, enfin, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'arrivée ou l'intérêt d'HP, c'est un signal qui montre que cette industrie est effectivement quelque chose qui a un avenir ou qui pourrait avoir un avenir en tout cas.
Alexandre, c'est un avenir évident. J'en finis avec ça. J'ai vu un sujet la semaine dernière, je crois. Ça se passe aux États-Unis et on voit une jeune fille, enfin même très jeune, elle a quelques années, elle a 4 ou 5 ans, je crois. Et la pauvre a perdu sa main ou est née sans main, enfin etc. Donc ils lui ont fait une prothèse. Le problème quand t'as 5 ans, c'est que la taille de la prothèse, il faut la changer tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, parce que sinon ça va plus. Et jusque là ça coûtait une fortune et maintenant son papa va chez les makers du coin et pour $5 il refait un set de doigts pour sa fille.
C'est une histoire que le type a fait cette prothèse parce qu'il a entendu parler d'une histoire similaire d'un type qui avait vu ça, un lycéen qui avait imaginer refaire une prothèse dont il avait vu qu'elle coûtait genre $30,000 pour un voisin à lui dont le fils avait effectivement le même problème avec une main où il était né sans doigt ou quelque chose du genre. Effectivement, il a vu l'imprimante 3D, il s'est dit mais attends, moi je peux refaire peut-être cette prothèse qui coûte $30,000 et que eux ils ne pouvaient pas se payer pour presque rien. Il l'a fait et ça comme un virus, ça s'est répandu partout et il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça. Enfin, oui, c'est vraiment excitant.
Il faut aller voir de temps en temps ce qui se passe sur Thingiverse, Thingiverse, qui est un peu le Wikipédia du modèle 3D pour imprimante 3D, où tu trouves de fait des figurines de Star Wars, mais aussi des choses vraiment utiles ou bêtes et prosaïques et très quotidiennes. Tu vois, une pièce d'interrupteur, des choses, etc., qui dessinent bien ce à quoi va servir cette technologie.
Alexandre, rapidement, c'est les news et rumeurs, on est censé parler très vite, mais...
Je sais pas, je suis assez partagé, parce que par exemple, une imprimante papier, j'en ai une chez moi, comme beaucoup de gens, et alors que j'imprime, je sais pas, peut-être toutes les 2 semaines, 2 feuilles, quoi, donc je pense que les imprimantes 3D, ça risque de faire pareil à terme. Après, d'un autre côté, il paraît que l'ère, que le 21e siècle, l'ère, ça sera celle de l'usage et pas de la propriété. Donc c'est vrai que je vois bien, d'un autre côté, aller justement chez des makers avec sa petite clé USB et le plan de son poussoir d'interrupteur. Donc, sais pas trop.
Et voilà, nous on était tout excités en train d'annoncer la révolution de l'avenir et toi tu nous.
Mais c'est une révolution, ça change rien au potentiel. Hein.
Ouais. Bon, on verra.
T'auras juste pas besoin de l'acheter.
C'est vrai. Autre information très très intéressante, le partenariat entre Unity et Mozilla d'un côté et de l'autre côté Epic qui fait l'Unreal Engine et Mozilla. Alors de quoi il s'agit ? C'est une histoire très compliquée avec moteur de rendu 3D, ASM.js, de la compilation de code qui tourne aussi vite avec ASM.js ou une fois et demi aussi vite que en natif. Enfin, c'est assez technique.
Je crois que ton Patreon est en train de baisser.
Bon, franchement, moi, ça me passionne. Je me suis renseigné sur la chose pendant des jours et merci beaucoup à ceux sur Twitter qui m'ont donné des liens. Mais c'est assez compliqué. Mais en gros, je vais aussi faire le boulot pour lequel je suis entre guillemets payé. Dans l'émission, c'est-à-dire simplifier les choses et les expliquer de manière compréhensible. En gros, c'est un système développé en partie par Mozilla qui permet, en utilisant JavaScript, qui est un langage commun à tous les navigateurs web, en utilisant une partie de JavaScript de faire tourner n'importe quel programme dans une page web. Alors, je sais que je schématise et je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui vont être très énervés, mais en gros, c'est à peu près ça. Et on peut faire tourner n'importe quel programme. En théorie, on pourrait imaginer Photoshop, prendre le code source de Photoshop, le compiler par ce système et faire tourner vraiment hein, le vrai Photoshop dans le navigateur. C'est-à-dire que on mettrait l'adresse du programme Photoshop qui est hébergé à droite ou à gauche sur le web et il se téléchargerait dans votre navigateur et tournerait dans le navigateur comme il tourne sur votre système d'exploitation. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui a un potentiel énorme pour l'avenir. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est créer avec des accords, avec des développeurs qui créent des outils de création de jeux en 3D et de 3D en général, faire des compilations de leur moteur 3D pour qu'ils tournent, pour qu'ils puissent utiliser les jeux directement dans le navigateur. Alors, là où c'est vraiment intéressant, c'est que, étant donné que ce système utilise un langage commun à tous les navigateurs, qui est JavaScript, il peut être utilisé sans aucun téléchargement de plugin ou de quoi que ce soit d'autre de ce type-là, c'est-à-dire que vous pointez sur une adresse et directement, le jeu ou l'application va apparaître dans votre navigateur. Il y a une démonstration qui est bluffante de Epic Citadel, qui est une sorte de démo créée avec le moteur de l'Unreal Engine par Epic, dont je mettrai les liens dans les notes de l'émission aussi. Vous allez à cette adresse et directement le truc apparaît dans votre navigateur sans aucun plugin, sans ajout, sans demande de téléchargement, sans rien. Et c'est vraiment quelque chose qui, autant que avant je disais bon, on n'y est pas encore pour les jeux dans le navigateur, autant là, en deux secondes, pof, ça y est, c'est utilisable et ça risque de changer énormément de choses dans cette industrie, dans l'industrie de la programmation en général. C'est vraiment là, on y arrive, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose.
Ouais.
Bon, très bien.
C'est merveilleux ce qu'on arrive à faire maintenant avec les technologies modernes des navigateurs.
À terme, il
va se passer plein de choses en vidéo aussi, directement dans le navigateur, plus rien, sans plugin, sans flash qui plante et tout ça.
Oui. C'est vraiment, on arrive à des choses on peut aujourd'hui imaginer un avenir. Alors, les plus rêveurs d'entre nous en parlaient depuis déjà plusieurs années, mais aujourd'hui, on commence à pouvoir imaginer un avenir où tout pourra passer par le navigateur. Et ensuite, ce qu'on en fait, hein, c'est à l'estimation et l'appréciation de chacun, mais cette technologie peut vraiment arriver dans pas si longtemps que ça. News suivante, c'est le robot qui écrit des articles. Ça y est, Cédric, c'est le début de la fin.
Et voilà.
On n'a plus besoin des journalistes.
Alors, mon Patreon se trouve sur patreon.com/Cédric.
Alors, en fait, de quoi s'agit-il ? C'est à l'occasion d'un tremblement de terre dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez des gens sur Twitter qui sont en Californie. Il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles et c'était l'occasion pour le Los Angeles Times d'utiliser pour la première fois un système qu'ils ont mis en place il y a quelques mois, qui est un système de robot qui écrit véritablement de manière cohérente un article en fonction de ce qui se passe. Alors, en l'occurrence, c'est un robot qui surveille... Bon, c'est pas un vrai robot avec des bras, des mains, machin, hein, c'est un programme qui surveille les signaux qui indiquent les signaux des organisations de surveillance officielles, hein, qui indiquent qu'il y a eu un tremblement de terre, et il écrit en fonction des paramètres qu'il reçoit un article qui est customisé en fait, qui est préécrit mais qui est customisé. Et qui va ensuite être validé par un journaliste qui va le relire avant la publication. Donc, c'est pas tout à fait le robot qui a écrit l'article, hein, non plus. C'était vraiment quelque chose d'assez simple, qui a été écrit par, qui a été pré-rédigé par un robot, en fait. Mais là où je trouve ça très intéressant, c'est que je sais pas si vous aviez, si vous connaissez ces systèmes, que j'ai découvert à l'occasion de mes recherches dernièrement, quand j'ai constaté à quel point mon ordinateur est vieux et à quel point j'aimerais le changer. Il y a des systèmes de comparaison de processeurs qui ont été développés par certains sites qui vont écrire véritablement des articles, mais de manière complètement schématique, donc vous dites, je voudrais comparer tel processeur et tel processeur. Il va prendre toutes les données, qu'elles soient chiffrées ou de différentes types, et qui va, par un algorithme, créer un article qui est vraiment surprenant parce que on pourrait se dire, bon, bah, c'est une série de chiffres, ok, tel processeur va à telle vitesse, tel autre va à telle autre vitesse, donc celui-là, il est plus rapide. Mais en fait, c'est pas que ça. Il y a vraiment une rédaction, je mets des guillemets que vous entendez, j'espère, une rédaction qui est faite par un robot qui fait un article lisible, mais vraiment quelque chose de d'étonnamment convaincant. Donc, je me tourne maintenant vers les co-animateurs. Ça y est, c'est la fin du journalisme.
Absolument, c'est la fin. Enfin, en tout cas, uniquement pour des données structurées et absolument objectives. C'est-à-dire que oui, voilà, quand t'as...
Mais tu plaisantes ou pas? Non. J'ai du mal à déceler.
Je plaisante à moitié, mais c'est vrai que ça veut dire que tu vas pouvoir générer des choses intelligibles et plus lisibles qu'un simple tableau. Enfin, plus lisible à voir, parce qu'un tableau, c'est bien aussi. Pour comparer des choses comparables ou pour rapporter des choses qui sont uniquement basées sur des données objectives. Parce qu'en fait, l'ordinateur qui a écrit l'article sur le tremblement de terre, il n'a pas décidé d'écrire un article sur un tremblement de terre. Il avait été programmé pour rattraper ses données à la volée et écrire les phrases de liaison qui vont autour. C'est-à-dire, tu vois, l'épicentre se trouve à X, l'amplitude était de Y, etc., etc.
C'est vrai, mais c'est pour ça que je parlais des articles créés pour les comparaisons de processeurs. Là, ça va un petit peu plus loin. Alors oui, c'est schématique, mais
Peu comme, tu sais, ces systèmes qui te permettent de donner toute une série de photos et te font une jolie animation vidéo sur le thème que c'est tu as vrai. Choisi en disant est-ce que c'est des photos de sport, est-ce que c'est des photos de mariage. C'est pareil, mais tu en regardant ça, tu dis pas ça y est, c'est fini, graphiste et monteur, c'est un métier mourant. Parce que voilà, on est juste dans l'automatisation avec un soupçon d'intelligence, mais là encore voilà, mais c'est pas mal pour faire du breaking news au milieu de la nuit, quand il n'y a pas de journaliste au poste, etc. Et puis surtout, ça va très très vite.
C'est vrai. Alexandre, quelques mots à ajouter sur le sujet ou on passe au suivant ?
Non, c'est vrai que je partage ce que dit Cédric. C'est vrai que pour des données brutes, on va dire pour les mettre en forme de manière un peu stylisée, ça peut être sympa, mais enfin, pour moi, ça remplacera jamais, enfin, pour l'instant, jamais l'analyse d'un journaliste, parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt. C'est à savoir, il y a eu un tremblement de terre. Ok, on a des données factuelles, mais après, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu le tremblement de terre, les dégâts qui ont été causés, enfin, tout ça, avec une analyse fine, il y a qu'un journaliste qui pourra l'apporter.
Ce serait rigolo de faire s'attaquer ce genre de technologie à des choses un peu plus compliqué, et là tout à coup je pense qu'on passerait dans le Gorafi, tu vois, genre un coup de feu a été tiré à Gaza. Oui, merci.
Effectivement, c'est pas faux. Bon, on a encore un petit peu de temps avant de commencer à s'inquiéter pour notre métier. Et en plus, d'ici à ce... Mais le pire, c'est que s'ils peuvent commencer à écrire, on est à 2 minutes d'avoir Siri qui peut dire, ou en tout cas des voix synthétiques qui peuvent le dire aussi. Donc, et comme on peut avoir de la visualisation aussi avec la 3D... Le jour où ils pourront écrire, à mon avis, c'est tout un pan du journalisme. Mais c'est vrai que c'est plus pour l'annonce que pour le vrai journalisme. Bon, allez, on va conclure parce qu'on a passé beaucoup de temps sur tout ça avec l'affaire Microsoft qui lit les emails de son service Hotmail. On aurait pu en parler pendant les histoires de Snowden, mais c'était un petit peu différent. Je pense que j'ai préféré séparer la chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fuite de chez Microsoft et un employé qui a envoyé du code source de Windows 8 avant même qu'il ne soit sorti à un blogueur français. Certains disent c'est même pas vraiment un blogueur, qui les a ensuite publiés. Et le problème, c'est que ce type utilisait Hotmail appartenant à Microsoft. Et Microsoft a, bien sûr, voyant ces choses arriver, décidé de regarder ce qu'il y avait sur le serveur Hotmail pour identifier la personne, la source de cette fuite. Et bien sûr, ensuite, la personne a été renvoyée. Et le gros problème que ça pose, c'est, mon Dieu, attaque sur notre vie privée. Microsoft a regardé... les serveurs. Ah, je sais pas, il y a quelqu'un qui mange des bonbons là.
Pardon, c'est moi suis en train de jouer avec un sachet en plastique.
Donc, oh mon Dieu, Microsoft a rompu la confiance qu'on leur donnait, qu'on leur faisait, et ils ont regardé le mail privé de quelqu'un. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. D'une part, c'est dans les conditions d'utilisation. Microsoft a le droit de regarder vos informations. Pire que ça, Google, Apple et tous les autres font pareil. Donc, parce que j'ai trouvé une analogie assez bonne dans This Week in Tech, je crois que c'est Edbot qui disait ça, ou Jeff Jarvis peut-être, il disait, de toute façon aujourd'hui, l'email c'est des cartes postales, donc il faut les considérer comme ça, c'est-à-dire que vous les envoyez par la poste, mais n'importe qui peut les regarder en passant et voir ce qu'il y a écrit dessus, donc faut pas trop en attendre non plus. Mais d'autre part, Un autre argument que j'ai souvent lu et entendu aussi, c'était « Ah, mais de toute façon, Microsoft, c'est leur service, ils ont le droit de le lire et ils auraient dû passer par un juge. Le juge ne peut même pas donner de mandat parce que c'est un truc qui leur appartient. Et le juge ne peut pas donner un mandat pour lire un truc, pour regarder quelque chose qui appartient à la personne à qui il délivre le mandat. » Et en plus, c'était un crime qui était en progrès. Et ils ont vraiment demandé l'avis de leur conseiller juridique, de leur directeur juridique, pour savoir s'ils avaient le droit de le faire ou pas. Alors, tout ça, c'est vrai.
Parce que là, c'est quand même un cas assez particulier. On pourrait quand même objecter que ce que Microsoft a fait, il l'a fait pour protéger sa vie privée à lui. C'est-à-dire la protection de ses propres données.
Moi, j'ai tout à fait. Mais bon, il n'y a pas de doute que c'était un crime qui était, c'était un crime de trade secret, c'était du secret industriel, qui était, c'était vraiment un crime. Mais moi, là où j'ai un problème avec cette analogie, c'est que c'était pas comme s'ils avaient regardé ce qui se passait sur leur réseau interne. C'était pas le mail de l'entreprise.
Non.
Donc, c'est quand même un petit peu différent. Maintenant, à côté de ça, lisons les conditions d'utilisation, parce que ils ont tout à fait le droit de le faire. Il y a même pas de questions sur le sujet. Donc,
Microsoft a le droit pour protéger ses propres intérêts, ses serveurs, ses données, ses machins, et employés que sais-je encore, d'accéder à votre email, bien sûr.
Mais bon, à la lumière de Snowden et de l'importance renouvelée dans la vie privée, c'est sûr que ça fait un petit peu cradoc. Et certains ont appelé, là en l'occurrence je pense que c'est Jeff Jarvis, à l'établissement d'une loi qui dirait l'email est aussi sacro-saint que le courrier, parce qu'il faut savoir que le courrier, c'est un crime de lire le courrier, c'est-à-dire que même si la poste, je ne sais pas si c'est le cas en France en même temps, il faudrait que je me renseigne.
Le secret de la correspondance.
L'intégrité de la correspondance, tout à fait. Donc, si quelqu'un a la poste, même si ça transite par leur service, si quelqu'un ouvre votre courrier pour le regarder, eh ben, c'est un crime. Eh ben, peut-être que la chose à faire, plutôt que de se dire, oh mon Dieu, Microsoft a regardé dans notre courrier alors qu'ils ont le droit, ça serait de pousser pour transformer pour donner au courrier électronique les mêmes droits, ou plutôt en donner les mêmes règles qui existent pour le courrier physique.
En France, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Voilà. Alexandre, on a ton vote pour transformer pour donner au courrier électronique les mêmes règles que le courrier physique?
Bah oui, mais comme tu disais, c'est une carte postale et le facteur, quand il regarde ma carte postale, je le sais pas, contrairement à une lettre qui serait sous enveloppe.
C'est compliqué parce que ça veut dire, là encore, on revient au problème dont on parlait avec la NSA, c'est-à-dire que moi j'ai envie que Gmail puisse continuer à indexer mon mail. Ouais. Parce que c'est ça que je leur demande, de le stocker longtemps et de l'indexer pour le rendre facilement retrouvable. Donc si tout à coup une loi dit « Attention, dans Google, tu n'as pas le droit de toucher à ces données, tu ne peux pas y accéder, tu ne peux pas les lire, tu ne peux pas les indexer, tu ne peux pas les recopier », bah, il n'y a plus de Gmail.
Vous avez décidé de me gâcher mes joyeuses simplifications légales et administratives.
Il y a un cas avec Gmail également cette semaine, je crois.
Ah, j'ai pas vu le cas.
Ouais, ben ça c'est Mike Harrington qui dit un jour Google allume Gmail.
Ah
oui. Donc c'est Mike Harrington, donc il faut mettre une astérisque au bout de la ligne avant de savoir.
Il a dit oui, j'ai eu un leak un jour d'un type et comme par hasard, il s'est retrouvé viré au bout d'une semaine.
Ouais.
Bon. Harrington, c'est un peu le spécialiste de l'article trollifère, même s'il est très bon par ailleurs.
Hein, trollifère, bon. Je connaissais pas ce mot, je le ressortirai en le prenant. Je signe pour trollifère.
Sorti le même jour que l'article sur Hotmail, je crois.
Parce qu'il écrit vite. Hein. C'est comme les robots.
Oui, c'était en réaction.
Oui, trollifère, c'est Creative Commons. T'as le droit de l'utiliser sans payer.
Non, mais il se trouve que Harrington est physiquement trollifère.
En plus. Bon, donc voilà pour nos réflexions sur cette histoire de Hotmail et de Microsoft. On va passer un petit peu rapidement sur le casque de réalité virtuelle comparable à l'Oculus Rift de Sony qui a enfin été annoncé. Par contre, ça sera pas a priori avant 2015, donc on n'y est pas encore. Des rumeurs que Microsoft développerait un type de produit similaire. Canal+, qui voudrait
Sur Microsoft, quand même, il y a un truc, c'est que Microsoft a commencé à parler de ce qu'ils annonceraient à l'E3, à Los Angeles, en juin, en disant Xbox fera la plus grande annonce de son histoire.
C'est vrai.
Et là, tu dis, forcément, tu te grattes la tête, tu vois ce que je veux dire. C'est comme quand Apple te dit, nous allons nous attaquer à une nouvelle catégorie de produits. Bon, puis après, c'est CarPlay qui sort, et bon. Et là, tu te dis, c'est quoi? C'est un Oculus Rift? C'est un casque de réalité virtuelle? La Xbox va devenir une tablette? Enfin, voilà.
Intéressant. À suivre à l'E3. Canal Plus distribue son bouquet directement sur le web, un petit peu à la Netflix peut-être, hein, ça pourrait arriver. Office annoncé sur iPad dès le 27 mars, on y est presque, dans trois jours. Le Chromecast, la clé de streaming Chromecast disponible en France, si vous cherchez une solution simple pour diffuser le contenu web et autres sur votre télé, eh ben là c'est vraiment pas cher, c'est 35€ et ça marche très très bien.
Ils ont réussi à faire plus simple qu'une Apple TV.
C'est ça. Donc si vous êtes en particulier, ça marche aussi sur iOS, mais si vous êtes en particulier dans l'univers Google, vous serez peut-être intéressé. Et enfin, le blocage de Twitter en Turquie, qui a été évidemment immédiatement... Alors, Erdogan a dit qu'il éradiquerait Twitter, évidemment ça a été tout de suite contourné par les DNS de 8888 de Google, qui ont elles-mêmes été bloquées ensuite, mais le VPN fonctionne toujours. Enfin, c'est encore des gouvernements qui pensent pouvoir remettre le génie d'Internet dans la bouteille.
Remettre le lapin dans le chapeau.
Remettre le chat dans le sac.
Exactement. Ça marche pas en français, ça. il faut dire pourquoi il l'a bloqué. Hein. C'est parce que les gens s'échangeaient des liens vers des sites où il y avait des enregistrements d'Erdogan et de son fils. Où en gros, Erdogan disait à son fils, dis donc, tu as bien mis à l'abri les choses qu'il y avait chez toi. Oui, papa, j'ai bien rangé tout l'argent.
Tout à fait, on en avait parlé très très rapidement il y a quelques temps, mais on en rigole, mais enfin c'est vraiment pas drôle, hein, mais c'est vrai,
mais
c'est quelque chose de grave.
Ils ont dit que ce serait vite fini.
Oui.
Surtout ce qui est marrant, c'est que tout le monde condamne ça, la Commission européenne notamment, et puis il y avait l'article de Corbyn sur le filtrage des sites internet sans juge.
Oui, tout
donc
à
il
fait.
A parlé, donc
mais t'inquiète pas, c'est pour la pédopornographie, hein.
Ouais,
donc
bien sûr,
ça ira. Comme on l'avait dit en Angleterre, ça a commencé comme ça et puis maintenant petit à petit. Ah oui, mais si on rajoutait aussi les sites dangereux. Alors vas-y, va définir dangereux et dangereux pour qui. Et bon, oui, effectivement, c'est pas tout à fait. Mais moi, je me réfère à la lumière de Edward Snowden qui nous dit la communauté des gens qui ont développé Internet et des informaticiens pourra trouver des solutions à tout ça. Et moi, je veux y croire. J'allais dire j'y crois, mais je veux y croire.
T'as pas besoin d'y croire. Ça existe déjà. Là, pour le coup, on a déjà tous vu la Sainte Vierge. Ça fait plus de 20 ans que PGP existe, par exemple, pour crypter tes mails. Évidemment, l'objection à ça, c'est de dire, c'est un peu compliqué à utiliser. Je ne peux que vous conseiller très chaudement un plugin pour Chrome, si vous utilisez Chrome, qui s'appelle MailVelop, comme mail et enveloppe. C'est un plugin qui va vous permettre de créer votre clé PGP, qui, je rappelle, une clé de cryptage jusqu'à 2048 bits, enfin, un truc où non seulement la NSA pourra pas racler votre contenu avec sa grande pelle, mais même si elle s'attaque à vous, il lui faudra vraiment énormément de temps avant d'arriver à craquer vos mails. Et ça simplifie entièrement l'écriture et la gestion de l'encryption du chiffrage dans vos clients de mails sur le web habituel, Gmail évidemment, mais aussi les autres. Et c'est vachement bien fait, c'est d'une simplicité d'évangile. Quand vous ouvrez une fenêtre pour écrire un mail, il y a une petite icône qui arrive en disant « cliquez ici pour crypter ». Voilà. Donc voilà, MailVelop plugin pour Chrome.
Je mettrai le lien sur dans les notes de l'émission. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin, mais c'est vrai que c'est déjà un très très bon début. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission sur frenchspin.com. Et justement, ça nous amène à la fin de l'émission. Je voudrais d'abord encore une fois remercier chaleureusement les gens qui nous ont... j'allais dire les gens qui nous ont suivis. Non, je voudrais remercier, oui, eux aussi, mais aussi les gens qui nous ont accompagnés dans l'émission elle-même, à savoir Cédric et Alexandre. Et j'aimerais que vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet s'il y a des gens qui veulent vous suivre un petit peu par là.
Oh bah c'est simple, Cédric sur Twitter.
Cédric. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Cédric et dont tu reçois systématiquement tous les tweets
J'en reçois plein. J'en reçois pas énormément, parce que Cédric est pas le plus courant des prénoms, mais j'en reçois extrêmement régulièrement, ou c'est drôle, parce que des gens qui pensent parler à un pote en disant, Cédric, tu viens boire un verre, et souvent je réponds en disant, ça va pas être pratique, je ne suis pas à Jakarta. et puis, il y avait je crois que c'est un rappeur américain qui s'appelle Cédric, un black, et qui m'envoyait des trucs en disant, moi j'ai envie de le récupérer. C'est bien chéri, mais how much?
Donc tu serais prêt à le vendre peut-être?
De toute façon, il n'y a pas de oui ou de non, il y a combien.
D'accord.
Et ça m'a forcé à me poser la question, et la réponse est dans ma tête.
C'est marrant, j'ai un ami avec qui je discutais, qui s'appelle Turkey, qui est saoudien justement. Je faisais une émission en anglais avec lui, et qui avait le tweet, l'adresse Saoudi. Parce qu'il avait commencé, et il l'a vendu en fait. D'une part parce que ça faisait de l'argent, et d'autre part parce que tout le monde, enfin il y avait pareil, ceux dont tout le monde parle, il y avait plein de gens qui lui envoyaient des messages dont il voulait pas, quoi.
Ah ouais, t'as fait. Et c'est à la fois intéressant et compliqué. C'est du foncier en fait. Hein. C'est exactement comme les noms de domaine. Sinon, vous pouvez me retrouver, vous pouvez retrouver Plein Écran sur LCI toutes les semaines, dimanche 13h10 en première diffusion, puis 20h10 le dimanche, puis 4 fois dans la semaine. Mais si vous n'êtes pas devant la télé à cette heure-là, ou si vous n'avez pas LCI, mais vous inquiétez pas, on travaille au fait que vous ayez tous LCI sur la télé d'ici l'année à venir. On y travaille très fort. C'est ça aussi. Vous pouvez retrouver les archives de l'émission, entre autres, sur la page Facebook de Plein Écran. Vous tapez Plein Écran LCI sur Facebook et vous trouverez toutes les archives. Et si vous lisez de la presse papier, vous retrouvez une colonne qu'il faut que j'écrive à cet instant précis pour Télécable Satellite Hebdo. Ça a l'air bête comme ça, mais la presse télé, ça fait des millions d'exemplaires, donc ça ne se refuse pas.
Très très bien. Merci.
Ah, et vous pouvez me retrouver évidemment toutes les semaines dans On refait le Mac avec l'ami Olivier Frigara
qui est déjà
venu dans cette émission, et je vous recommande très fort l'émission de cette semaine qui est déjà en ligne, vous trouvez partout sur YouTube, qui est le ORLM 161 je crois, sur CarPlay. Parce que là on a mis les petits plats dans les grands et on a fait un truc, on se croirait pire qu'à la télé, avec une émission enregistrée en live en voiture, dans une voiture qui roule, avec mon ami Frigaret et Jean-Louis Fréchin, le designer, qui dit des trucs passionnants sur les contraintes de la voiture, et avec nous en hangout, etc., tout ça avec un montage absolument sublime, et nous on n'a même pas de Patreon, t'imagines? Bon, mais il se trouve qu'on avait en l'occurrence un partenaire technique en la personne de Bouygues Télécom, dont la 4G est remarquable, voilà.
Très très bien dit, magnifique Cédric, j'admire le professionnalisme.
Mais ils ont payé.
Très bien, c'est encore mieux.
Des gens bien, vous dis-je.
Alexandre, pour ta part, puisque Alexandre est un jeune homme de qualité qui sait ce qui est bon dans la vie.
Avec une jolie
main. Mais qui est aussi timide sur durant l'émission que sur les réseaux sociaux, donc je tweete très peu, donc ça sert à rien que je donne mon compte Twitter, mais je suis un petit peu plus actif sur Google+, et donc c'est plus Alexandre Plisson, P comme Patrick, LISSON, tout accroché.
Très bien, mais
voilà.
Ah, mais il est tellement timide, il veut pas parler de sa start-up.
C'est
l'occasion.
Donc j'ai monté une start-up au mois d'octobre qui s'appelle Local, L-O-C-O-W-L, et qui est un service de publicité géolocalisé rémunéré, et qui est uniquement déployé à Brest pour l'instant, et dont le déploiement national est prévu pour cette année.
Magnifique. Voilà. Redis le nom.
L-O-C-O-W-L.
Quand tu dis de la publicité rémunérée, c'est-à-dire je regarde de la pub et on me donne de l'argent ?
Ouais, voilà, en fait, c'est géolocalisé. Donc, dès que tu passes à côté d'un commerçant partenaire, tu reçois automatiquement un push avec une annonce commerciale de la part de ce partenaire. On va t'attribuer des points, en fait. Un point si tu indiques si tu aimes ou si tu aimes pas ce commerçant. Et après, le commerçant va t'incentiver, à savoir va t'inciter à venir dans son magasin juste pour scanner un QR code, donc d'un montant de son choix. Et si tu achètes, tu as encore plus de points. Et à partir de ces points, dès que tu as 200 points, on te donne 20 euros en cash sur ton compte bancaire.
Pas mal.
Et avec iBeacon, j'imagine que ça vous intéresse encore plus, ce genre de choses.
On regarde pour l'instant, on se base uniquement sur la géolocalisation GPS et par triangulation, mais oui, on regarde ce qui se fait de ce côté-là également. D'accord.
Très intéressant. Très très bien. Eh bien écoute, merci bien Alexandre. Pour ma part, vous savez que c'est NotPatrick sur Twitter, compte Twitter qui n'est pas en vente, même pour une somme indécente.
100 000.
Maintenant,
tu vois,
on fait le check.
Tu vois, oui, y a mais pas, tu sais, non, mais n'est pas une bonne réponse.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, j'avais choisi notre Patrick simplement parce que Patrick était déjà pris. C'était un développeur dans la Silicon Valley. Et maintenant, mon identité sur Internet est tellement associée à notre Patrick. Et finalement, le nom, j'en parlais dans des Week in Tech, justement, je crois, je sais plus, il y a deux semaines. C'est finalement au niveau marketing, entre guillemets, c'est tellement bon ce truc parce que c'est tout à fait unique et en même temps tout le monde s'en souvient, c'est impossible de l'oublier, tu vois. Donc je sais même pas, enfin oui bien sûr, si tu me proposes $1 million, bien sûr je vais dire oui, mais
bon, alors,
franchement
$10 000 plus at Patrick.
Non, le problème c'est que $10 000 c'est pas, parce que j'ai, pour moi mon identité sur Internet, oui non mais c'est ça, non mais je veux dire vraiment mon identité sur Internet c'est quelque chose de très important parce que je suis une personne qui se livre au public en quelque sorte, j'ai une personnalité publique sur Internet et notre Patrick ça prend enfin ton identité sur Internet ça prend des années à développer, les gens te connaissent sous un certain nom et te font confiance sous un certain nom, c'est compliqué à modifier quoi, à reconstruire ensuite, donc $10 000 moi je pense que j'accepterai pas. Pourtant, c'est une somme, hein. Je dis pas que, pas de problème, moi, 10 000 dollars, je me cire les chaussures avec.
Mais. Tu me proposes 10 000 mais euros, hein, pour Cédric, je te le passe pas.
Ouais. Donc voilà. Bon.
Essayez
donc.
Encore, petit scarabée.
Mais c'est une question très intéressante à se poser, effectivement. Donc, pour moi, c'est NotPatrick sur Twitter. Vous pouvez aussi, tiens, je parle de temps en temps de iTunes. Je voudrais lire ce commentaire de Ikari64 qui dit « Merci Patrick, après avoir suivi le podcast pendant un an, j'ai repris le podcast depuis le début. C'est très intéressant de voir l'évolution des technologies avec les paris de chaque animateur. Vous vous êtes rarement trompé, nous dit-il. Émission de grande qualité, drôle, précise et pertinente, vulgariser juste ce qu'il faut. Merci Patrick, j'apprécie vraiment ton commentaire Ikari, parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans l'émission. Donc merci beaucoup à toi de le faire savoir sur iTunes, ce qui est un autre moyen de nous soutenir aussi. Ça aide vraiment à faire connaître l'émission et à la diffuser un petit peu plus, puisqu'iTunes reste l'un des moyens de découvrir des podcasts principaux. Donc voilà, merci à toi, et si vous avez deux minutes à perdre, vous pouvez nous laisser un commentaire sur iTunes et une petite note. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et une petite note sur l'émission si vous le voulez sur frenchspin.com. frenchspin.com, c'est le blog où sont hébergés toutes mes émissions. Donc il y a le rendez-vous tech bien sûr, il y a Upload que je fais avec mes camarades Jérôme Kainborg, Corben et Cédric Bonnet sur des conseils d'app qui sont parfois plutôt sympas. Il y a Positron également qui vous recommande toutes sortes de produits culturels, des films, des séries, des livres, de la musique, et on a des gens différents qui viennent pour différents épisodes. On conclut avec mon frère et mon camarade, donc Daniel Béja, musicien, et Gabriel Katz, auteur de son état de science-fiction, pardon, d'Heroic Fantasy. Et on va commencer avec une nouvelle session de 4 épisodes avec deux invités particuliers que je nommerai pas ici pour garder un petit peu le suspense, mais c'est plutôt cool aussi. Donc bref, vous l'avez compris, frenchspin.com, vous pouvez y découvrir des émissions également très sympathiques. Et bien sûr, vous connaissez le Patreon, on va pas refaire un long couplet là-dessus. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est évidemment le meilleur moyen. Je vous remercie très chaleureusement, chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette 1h30 et un petit peu plus, 7h45 de tech. Je remercie les co-animateurs d'avoir été présents et d'avoir été brillants, comme toujours. Et je vous dis à tous rendez-vous dans 2 semaines. Ciao à tous!